Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil. Joyeux Noël à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal et du journal de Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. No Name 057, c'est le nom du groupe de hackers pro-russes qui se cache derrière la cyberattaque à la Poste. Des perturbations subsistent ce matin. Les syndicats agricoles passent satisfaits de leur première rencontre avec Emmanuel Macron. Ils réclament un changement de cap dans la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Et puis, plus que quelques heures avant le réveillon de Noël, nous serons en direct d'un marché de Strasbourg en pleine effervescence.
Et on sait ce matin qui se cache derrière la cyberattaque qui risque de gâcher Noël.
Un groupe de hackers pro-russe a revendiqué l'attaque qui perturbe ce matin encore les services de la Poste. Et Ameline Lachevin, ces cybercriminels n'en sont pas à leur coup d'essai.
Oui, No Name 057 a depuis sa création, juste après l'invasion de la Russie en Ukraine, multiplié les cyberattaques. En France, on en compte plus de 2000 en 2 ans.
Ils ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient.
Damien Bancal est spécialiste en cyberintelligence.
On peut parler de mairie, on peut parler de département, on peut parler aussi d'entreprise. Pourquoi ils attaquent telle ou telle entreprise? L'important, c'est pour eux de faire parler d'eux.
Car ces pirates informatiques ne s'intéressent pas aux données, mais aux messages que ces attaques peuvent véhiculer. À chaque attaque, un objectif clair et assumé, servir les intérêts du Kremlin. Et pour cela, un même mode opératoire, les attaques en déni de service, aussi appelées DDoS, ultra efficaces pour saturer et paralyser un site. Alors si la revendication de No Name dans la cyberattaque contre la Poste reste à authentifier, selon une source gouvernementale, le mode opératoire rend crédible leur implication.
L'un des 4 salariés blessés lors de l'explosion à l'usine chimique d'Elkem Silicone est mort hier après-midi. L'homme de 47 ans a succombé à ses brûlures. Une enquête est toujours en cours pour tenter de déterminer les causes de cet accident qui s'est produit lundi à Saint-Fons en région lyonnaise.
RMC 7h02, les syndicats agricoles reçus hier par Emmanuel Macron.
Une première depuis le début de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse dont les agriculteurs contestent la gestion par le gouvernement. Ils sont aussi contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Point sur lequel le Premier ministre Sébastien Lecornu a tenté de les rassurer, mais Antonin Audion, ça n'a pas suffi.
Oui, les agriculteurs veulent du concret. Les discussions avec le président de la République et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, hier, ne les ont pas convaincus. Pierre Coël est président des jeunes agriculteurs.
On a passé un peu plus d'une heure et demie, donc entendu, oui, écouté, on verra bien. Nous, la balle, on leur a transmis, elle est dans leur camp. Et maintenant, on va voir comment ils transforment l'essai.
Au menu des discussions, la dermatose nodulaire contagieuse, mais aussi et surtout le traité de libre-échange avec le Mercosur. Un non-sens pour l'agriculture française, selon les syndicats. Le Premier ministre a tenté de les rassurer.
Je veux aussi m'adresser aux agriculteurs. Votre situation exige du respect et de la détermination. Sur le traité du Mercosur, la position de la France est ferme. Aucun accord ne sera accepté s'il fragilise nos filières ou impose une concurrence déloyale. Le texte a évolué, mais le compte n'y est toujours pas.
Sébastien Lecornu a annoncé qu'il recevrait à nouveau les représentants syndicaux agricoles le 5 janvier prochain.
Et justement, les jusqu'au-boutistes, j'allais dire, la Confédération paysanne, ceux qui veulent continuer à manifester, y compris pendant Noël, seront en direct sur RMC à 7h40. C'est Stéphane Gallet, le porte-parole de la Confédération paysanne, qui répondra à mes questions.
Et on l'entendait à l'instant, le Premier ministre s'est donc exprimé hier soir depuis Matignon, juste après le vote de la loi spéciale adoptée par le Parlement. Elle permet aux administrations publiques de continuer à fonctionner malgré l'absence de budget. Il sera de nouveau discuté à partir du 8 janvier. Deuxième incident sur un Airbus A320 en moins d'une semaine. Hier, un avion de la compagnie espagnole Vueling devant relier Paris à Ibiza a atterri en urgence à l'aéroport de Clermont-Ferrand. La compagnie évoque un problème technique sans plus de précision. Les passagers ont pris un avion de remplacement jusqu'à l'île espagnole.
Il est 7h05 sur RMC. Fin de la vigilance rouge crue dans l'Hérault.
Le département rétrogradé en orange par Météo France. La décrue est en cours, mais à Sommières, dans le Gard, les habitants constatent donc les dégâts. Les dégâts, heureusement, limités à Anna Jojard.
Donc l'eau est arrivée jusqu'à là.
Philippe pointe ce qu'il reste du trait d'eau de la crue. Elle est montée à plus de 90 cm dans son restaurant.
Elle est restée là pendant un moment et à 9h ça commençait la décrue lente.
À force de racler la boue, il ne reste presque aucune trace de l'inondation, aucun dégât majeur. Philippe a connu d'autres crues dans le passé, il s'est donc adapté. Les murs sont carrelés, les cuisines installées à l'étage.
Et à Sommières, et comme on dit, on est habitué à, si on a une bonne logistique de travail et tout ça pour tout enlever, c'est bon quoi, vous pouvez retravailler dans les 2 jours qui suivent quoi.
De rue rue plus loin. Angèle, installée ici depuis 5 ans, a vécu sa première crue. L'eau est montée dans son rez-de-chaussée qui lui sert de garage. Elle vit à l'étage.
Depuis 2002, on n'a plus le droit d'habiter au rez-de-chaussée à Sommières à cause des grosses inondations.
Elle constate tout de même quelques dégâts matériels.
Les trois quarts des affaires sont à jeter. Mais après, il y a des voisins qui vont venir m'aider. Les Sommiérois, ils ont l'habitude, entre guillemets. C'est normal qu'il y ait de l'aide et c'est normal qu'il y ait des crues. Et donc, on vit avec ça.
Et ici, beaucoup d'habitants ont réussi à limiter les dégâts. Alors la plupart l'affirment, les conséquences des inondations ne viendront pas trop troubler les fêtes de fin d'année.
La Drôme et l'Ardèche passent ce matin en vigilance orange neige-verglas. L'ancien commissaire européen Thierry Breton interdit de séjour aux États-Unis. L'administration Trump l'accuse de censure au détriment des intérêts américains. Lui et quatre autres personnalités engagées pour une stricte régulation du numérique.
Le président américain mis en cause dans l'affaire Epstein.
De nouveaux documents dévoilés hier par le ministère de la Justice américain évoquent des liens, Antoine Lard, entre le pédophile et Donald Trump.
Oui, ces documents d'abord montrent que Donald Trump était proche d'Epstein, des liens bien plus étroits que ce que le président affirme. On apprend notamment qu'il a voyagé à au moins 8 reprises dans le jet privé du pédophile. Autre document très embarrassant pour Trump, cette lettre que Epstein a envoyée à un pédocriminel condamné. Il écrit « Trump partage avec nous le goût des jeunes filles ». Alors le ministère de la Justice dénonce des affirmations fausses et sensationnalistes. Pour les victimes en tout cas, comme pour les démocrates, le compte n'y est toujours pas. L'administration Trump continue de déclarer classifier les fichiers au compte-gouttes et surtout, de très nombreuses pages sont caviardées, le nom de potentiels complices d'Epstein notamment, 10 hommes mentionnés dans ces documents, mais dont l'identité n'a pas été révélée, comme si l'administration cherchait à les protéger.
Antoine Nollard, correspondant de RMC aux États-Unis. Plus que quelques heures avant de passer à table. Le réveillon de Noël, c'est ce soir et vous allez peut-être donc passer la journée en cuisine. Lucille Pascanet, on vous retrouve en direct des Halles du Marché-Gare à Strasbourg pour RMC. Et les commerçants, eux aussi, se préparent à passer une grosse journée, Lucille.
Oui, hein, ici c'est la dernière ligne droite pour ces professionnels. Exemple à la boulangerie des Halles du Marché-Gare, l'atelier 116. Elles sont 6 hein, à s'activer derrière le comptoir le 24 décembre. C'est la plus grosse journée de l'année avec Pâques. Et certains produits ne devraient pas faire long feu derrière la vitrine, à peine quelques minutes avant rupture, selon Inès Olourguet, la manager.
On va pas se mentir, le pain de mie avec le foie gras et le saumon ou autre est très apprécié. Les bûches, hein, bien sûr, 4 personnes, 6 personnes, les individuels. Et puis bon, la viennoiserie, mine de rien, pour les lendemains de fête, c'est sympa. Ça va partir très vite, on espère pas trop se tromper. Mais moi, je suis contente, j'aime bien ces journées-là où il y a du monde, on partage et donc plutôt positive.
Inès Olourguet attend donc aujourd'hui plus de 600 clients. Ils arriveront tout à l'heure dès 8h et ils auront jusqu'à 14h pour faire leurs dernières emplettes.
C'était le journal de Rachel Saadonini. Justement, Noël qui se prépare. Vous êtes nombreux à nous appeler pour témoigner, nous raconter votre Noël. Il y a Muriel d'ailleurs qui est avec nous et qui nous appelle de Fréjus. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Bonjour Muriel, joyeux Noël. Vous serez où ce soir?
Alors ce soir, on sera à la maison, mon mari et moi, tous les deux tout seuls.
Tous les deux tout seuls, mais c'est bien aussi de temps en temps, non?
Ouais, ça fait du bien de temps en temps, surtout après la fin d'année que nous venons de passer. Mmh. Et après, le lendemain, on sera chez notre fils.
Ouais.
Avec nos petits-enfants. Nous en avons 8.
8 petits-enfants, félicitations Muriel. Ça, c'est des beaux moments, des très beaux moments. Ce soir, vous allez manger quoi?
Alors ce soir, on va manger foie gras, saumon, les choses habituelles. Et puis après, on verra tous les deux. Je pense qu'on va se faire une petite fondue tous les deux.
Ah, une petite fondue. Mais alors attendez, la fondue après le foie gras et le saumon?
Ouais, un petit peu quand même.
Ah ouais, c'est intense quand même votre soirée.
C'est le jour de fête.
C'est le jour de fête, on se fait plaisir, c'est sûr. Muriel, vous travaillez aujourd'hui ou pas?
Non, je travaille pas.
Ni vous ni monsieur?
Non, monsieur sort de l'hôpital aujourd'hui.
Ah, monsieur sort. Ah, bah alors donc vous avez d'autres choses à fêter en plus ce soir?
Oui, je pense.
Le fait de vous retrouver, c'est merveilleux.
C'est ça.
Bon. Et demain, c'est votre fils qui cuisine?
Oui, notre fils travaille aujourd'hui. Comme le reportage que vous venez de voir, il travaille de bouche et c'est très intense pour lui aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est lui qui nous reçoit chez lui et qui fera la cuisine.
Je trouve ça beau aussi d'être à un moment reçu par ses enfants. J'en suis pas encore là, mais je me dis que ça doit être quand même un moment très émouvant aussi quand c'est vos enfants qui prennent le relais, non?
Voilà, on l'a fait pendant de longues années à la maison Et là, cette fois-ci, on a des enfants qui ont des grandes maisons, on va dire, et qui peuvent nous recevoir tous ensemble.
Eh ben, c'est merveilleux. Alors, embrassez toute la famille, Muriel, et votre mari ce soir qui sort de l'hôpital. Et merci d'avoir partagé avec nous ce matin. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez.
Noël, c'est évidemment une fête chrétienne, mais c'est une fête pour tous les Français. 9 Français sur 10 disent que pour eux, Noël, c'est un moment essentiel et que c'est bien plus qu'une fête religieuse. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous êtes un spécialiste des religions. C'est le jour ou jamais où vous donnez la parole précisément. Parce que pour vous, le fait que ces Français disent aujourd'hui, eh bien, que quelle que soit leur religion, Noël est un moment essentiel et fédérateur, ça montre aussi que la France reste attachée à ses valeurs. Et vous nous expliquez ça dans un instant. Ou qui venait d'écrire Occident ennemi mondial numéro 1. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est le moment ou jamais de se dire joyeux Noël. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Vous êtes théologien, historien des religions. Votre dernier livre, ça s'appelle Occident, ennemi mondial numéro 1. Et c'est aux éditions Albin Michel. Se dire joyeux Noël, pendant quelques temps, il y a une sorte de polémique. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas se dire joyeux Noël? Et ce que l'on voit, c'est que 9 Français sur 10 disent que pour eux, Noël, ça reste une fête essentiel. Une fête chrétienne, mais une fête française.
Oui, alors évidemment, vous savez, c'est chez Orwell, on veut refaire le langage, on veut imprimer un nouveau langage pour changer la mentalité des gens, mais ça marche pas. Non, les Français disent joyeux Noël, ils disent pas bonne fête, comme si cette fête, elle était anonyme. C'est leur fête, c'est une fête qui les rassemble, qui les réunit, c'est un moment de grande communion. Pourquoi ? Parce que Noël, ça correspond en fait à un immense rythme cosmique et anthropologique. C'est le moment, ce fameux solstice d'hiver, où on voyait la ténèbre, on voyait le froid gagner, la terre allait peut-être disparaître, n'est-ce pas? On s'enfonçait comme ça dans l'obscurité.
Dans la nuit.
Voilà. Et puis, d'un coup, le jour, la lumière se remet à triompher. Et donc, il y a une promesse, n'est-ce pas, de la vie du monde. Et elle est portée par quoi? Par les enfants. Or, le christianisme, c'est quoi? C'est un Dieu qui choisit d'être un enfant, désarmé, dans une grotte anonyme, dans un coin perdu de la planète. Et il est, lui, le roi du monde, cette royauté de la vie à transmettre. Et cette notion de cadeau, vous voyez, vous la retrouvez déjà dans la Rome païenne. Bon, là, on n'est pas chrétien, mais il y a cette fête du solstice, du soleil qui est invaincu. Et puis, on distribue des cadeaux aux enfants, parce que c'est eux qui portent la promesse, voilà.
La promesse, vous dites le mot promesse, le mot espoir. Alors il y a aussi un regain des religions. Il y a un regain notamment, certes, le nombre de chrétiens est pas forcément en progression, mais ceux qui sont chrétiens vont davantage à la messe. On attend davantage de monde d'ailleurs ce soir à la messe de minuit.
Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a eu une église en France, je dirais, tout le monde était plus ou moins catholique, 80%, baptême, mariage, funérailles, tout se passait à l'église. Et puis il y a eu la sécularisation. Cette église, finalement, je dirais qu'elle a perdu de son obésité sociologique, donc elle a gagné en vitalité, en conviction. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un Français sur 10, un Français adulte sur 10, qui réellement se sent parfaitement catholique. Et là, on a quelque chose quand même de très important pour la France. Regardez l'importance de l'Église catholique dans l'éducation. La majorité des écoles dites privées sont catholiques.
Ce sont des écoles catholiques.
La santé, n'est-ce pas? Qui n'est pas allé se faire soigner un jour à Sainte-Félicité ou à je ne sais trop quelle institution, hôpital, clinique,
y compris dans les EHPAD.
Et puis, regardez, vous qui êtes journaliste, il y a aussi un monde médiatique catholique en France qui compte, qui est professionnel, un journal quotidien, etc.
Très bien.
Voilà. Donc, on voit bien que là, si vous voulez, bon, nous sommes dans ce qu'on peut appeler le catho-républicanisme, n'est-ce pas? La République elle-même.
C'est quoi le catho-républicanisme?
Regardez la Troisième République, le Panthéon, c'est une église qu'on a transformée en temple pour les grands hommes, puis c'est devenu ensuite aussi pour les grandes femmes, mais un peu plus tard. Disons le
cas, n'est-ce pas?
Bon, regardez le catéchisme républicain. Il y a même un baptême républicain que vous pouvez demander à la mairie. Je ne sais pas si votre mère saura le pratiquer, mais bon, ça existe.
Mais ça existe, ça veut dire que on continue à s'inspirer de cela. Pour vous, il y a une forme de regain. Il y a aussi une ouverture à des traditions qui s'adaptent. Par exemple, on a vu fleurir dans les boutiques des dindes halal pour Noël, ce qui veut dire que, y compris la religion musulmane, veut fêter Noël d'une certaine manière.
Alors, vous voyez, il y a une grande fête juive qui précède un peu Noël. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Là aussi, c'est cette notion véritablement, je dirais, de retrouver la générosité. Et c'est pour ça qu'on fait des cadeaux, n'est-ce pas ? L'univers est généreux. Nous sommes un peu des princes. Nous donnons, nous fêtons. Voilà, c'est cette idée-là, même dans un monde terrible. Hanouka, c'est une fête juive où on a commencé à faire des cadeaux aux enfants. Ça se faisait pas avant. Et oui, et les dindes halal, la vente explose. Pourquoi ? Parce que nos compatriotes musulmans, bah, ils veulent pas que leurs enfants soient moins. Ils veulent eux aussi se réunir. Ils veulent eux aussi retrouver
ce moment où on
cette
se
communion.
Réunit. Vous savez quoi, Jean-François Colosimo ? Il y a Aude qui nous appelle justement de l'Aube, la chapelle Saint-Luc. Bonjour Aude.
Bonjour.
Aude, vous vouliez témoigner. Je crois que vous avez une famille où vous vous retrouvez très nombreux et d'ailleurs de toute sensibilité.
Oui, bonjour à tout le monde. Oui, nous, c'est une grande tradition familiale, le réveillon, depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai 51 ans, donc voilà, je vous laisse imaginer. Mmh. Et nous, la tradition, c'est de se retrouver tous ensemble le soir du 24 décembre pour réveillonner, pour se retrouver tous ensemble autour d'un bon repas et échanger, rire, chanter.
Vous serez combien ?
Alors, ce soir, on est 41 adultes.
41 adultes ?
Ouais.
C'est extraordinaire. Et quand dites adulte, ça veut dire qu'il y a plein d'enfants en plus autour. On les compte même plus, quoi.
Alors là, cette année, il y en a un petit peu moins. Il y en a que trois.
Ah, il y en a
l'année
trois.
L'année dernière, on était 52, si je me trompe pas, 52.
D'accord.
Et il y avait une petite dizaine d'enfants.
D'accord. Et alors, comment ça s'organise ? Tout le monde apporte quoi dîner ?
Alors, comment ça s'organise ? On a les petits lutins du Père Noël qui sont là. On a une petite équipe de lutins qui... Alors, il y en a qui s'occupent de faire l'apéritif. Il y en a qui vont décorer le sous-sol de ma maman, où ça se passe.
D'accord. Et ça se passe chez votre mère ?
Ouais, au sous-sol depuis tant d'années. Et puis d'autres qui s'occupent de faire réchauffer.
Oui, en fait, chacun a sa tâche. Est-ce qu'il y a une notion religieuse ou
Non, c'est le plaisir de se retrouver, de finir en chantant, c'est vraiment un moment de joie, de partage, de bonheur de se retrouver tous.
Il y a un échange de cadeaux ?
Non, parce que
pour votre mère,
cadeau
peut-être
en fait, pour maman, mes frères, mes nièces, mais sinon, non, la famille est trop grande, sinon.
Ça en ferait beaucoup. C'est merveilleux, franchement, on est très heureux d'entendre aussi ce témoignage. Aude, merci d'avoir appelé. Quand on entend ça, effectivement, Jean-François Colosimo, c'est-à-dire ce moment familial, parce qu'on a parlé des cadeaux, on a parlé de l'espoir. Mais c'est vrai que c'est un moment autour de la famille.
Oui, et donc aussi de la transmission, n'est-ce pas ? Communion, transmission, on a besoin de se rassembler. Vous voyez, quand l'auditrice dit évidemment que c'est pas de connotation religieuse, mais c'est peut-être ça la religion. C'est-à-dire que nous voyons toujours, parce qu'on est un peu les enfants des Lumières, la religion, c'est l'appareil religieux, il y a des prêtres, il y a des textes sacrés. Mais non, la religion, c'est aussi ce qui relie, n'est-ce pas? Ce qui fait que on est ensemble, hein. On parle sans arrêt du fameux vivre ensemble. Bah, il semble finalement que lorsqu'on laisse faire les Françaises et les Français, ils savent le faire tout seuls, sans personne, sans programme. Pourquoi? Simplement dans cette espèce un peu de joie. Voilà. Et puis, il y a cette idée de trêve. La trêve de Noël. Ouais, c'est dans toutes les guerres, on s'arrête à Noël. N'est-ce pas ?
Arthur Chevalier, hier, nous a remonté le temps, justement, de cette expression des trêves de Noël et de ce que ça avait, par quoi ça s'était traduit, effectivement, dans l'histoire. On a même entendu hier à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen qui disait, avec un sourire en coin, et le Premier ministre qui lui répondait en disant, il y aura une trêve de Noël. Et de fait, pour la première fois hier, ils se sont tous mis d'accord sur un texte, puisque, à l'unanimité, ils ont voté cette loi spéciale. Quand vous dites, ça relie. Est-ce que relie religion, Jean-François Colosimo, est-ce que c'est aussi parce que le reste du monde, et là reprends le titre de votre livre, Occident ennemi mondial numéro 1, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut à nouveau faire corps parce que dans un sens nous sommes désignés comme l'ennemi ?
Alors je dirais deux choses, la première c'est si vous promenez votre regard sur le monde, voyez combien d'enfants sont dans des situations apocalyptiques. Et on sent qu'il y a une injustice parce que recevoir la vie, pouvoir grandir, pouvoir simplement vivre, respirer, voilà, ça serait être un droit inaliénable. On voit qu'on en est loin. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons même ce scandale. Vous voyez, je vous parlais de cet enfant désarmé, ce Jésus qui, encore une fois, dans est une inconnu mangeoire. De tout le monde, dans une mangeoire. Bon, aujourd'hui, on le voit, le monde va si mal qu'il y a des idéologies qui arment les enfants. Pas le phénomène des enfants soldats. C'est certainement, je dirais, un des signes les plus tragiques, finalement, de notre monde déboussolé, qu'on puisse faire d'enfants qui sont faits pour l'innocence, la joie, le bonheur, des tueurs, n'est-ce pas ? Et là, on voit que donc nous avons besoin, nous, de nous retrouver aussi, pas simplement pour nous fêter dans une espèce de béatitude consumériste, etc. Nous avons besoin de nous retrouver pour nous ressourcer, pour dire que nous avons en nous aussi, ensemble, une force pour résister au mal. Et vous rappelez-vous, la résistance, c'est ça. C'est celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Ben voilà, c'est ça, Noël.
Au fond, la lumière, effectivement, dans les ténèbres, le bien qui gagne sur le mal. C'est, on en revient à l'essentiel, mais ce soir, au fond, c'est aussi cela. Merci, Jean-François Colosimo, d'être venu passer cette aube du jour de Noël avec nous. Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est aux éditions Albin Michel. Joyeux Noël à vous. Et Arthur Chevalier, je l'évoquais, est avec nous pour mon plus grand bonheur, comme chaque matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ce soir, à la fin du repas de Noël, comment échapper à la célèbre bûche de Noël? Et justement, Arthur, d'où vient cette tradition de la bûche?
Eh bien déjà, la bûche n'a pas toujours été glacée. Au début, c'était un vrai morceau de bois auquel on attribuait des pouvoirs magiques. La bûche, Apolline, c'était votre porte-bonheur.
Et vous nous le racontez dans un instant, ça fait lourd comme porte-bonheur. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC. Il est
7h24. RMC, Apolline Matin.
7h24, l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier, comme chaque matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ce soir, c'est le dîner du réveillon de Noël, un repas dont la bûche est toujours un des grands classiques.
Et oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année, on vend 8 millions de bûches de Noël. 75% de ces ventes sont évidemment réalisées dans les dernières semaines de décembre, c'est logique.
Depuis quand cette tradition?
Alors, avant d'être un dessert, la bûche de Noël, c'était une vraie bûche, si je puis dire, donc un rondin de bois, si vous préférez. Et ce rondin, on lui attribuait des pouvoirs magiques depuis le Moyen-Âge. La tradition, c'était de mettre une bûche dans la cheminée à partir du 24 décembre. Alors ça allait avec un petit rituel, le voilà ce rituel. En général, on prononçait une prière, on arrosait la bûche avec de l'alcool, donc vous pouvez mettre ce que vous avez sous la main, du vin ou de l'eau de vie. Ensuite, il faut taper sur la bûche, et quand vous tapez dessus, si elle fait beaucoup d'étincelles, eh bien ça vous porte bonheur. Quant aux cendres de cette bûche, elles sont censées protéger votre maison et pourquoi pas garantir de bonnes récoltes.
Mais ça devait brûler combien de temps cette histoire?
Alors justement, c'était très technique, c'était pas si simple parce qu'il fallait que ça dure jusqu'à l'épiphanie. Donc du 24 décembre jusqu'au 6 janvier, alors il fallait éteindre la bûche, la rallumer et évidemment, si ça ne se passait pas bien, ça vous portait malheur, ça très grave. Bref, la cérémonie de la bûche, Apolline, ça relevait finalement de la superstition et du rituel populaire plutôt que de la religion.
Jusqu'à quand ça va durer?
Alors, jusque, en gros, au 19e siècle, puisque là, évidemment, les gens se mettent à vivre de plus en plus dans des villes, donc dans des appartements. Donc, évidemment, les cheminées se font de plus en plus rares et forcément, la tradition de la bûche recule, mais elle ne disparaît pas. Elle est remplacée par quelque chose d'autre et ça sera d'abord des jouets pour enfants, des jouets en forme de bûche, figurez-vous, c'était très à la mode. On va aussi se mettre à fabriquer des très belles boîtes, des petits objets, tout ça en forme de bûche. Bref, la bûche, ça devient un objet qui symbolise Noël.
Et quand est-ce que ça devient un dessert de Noël?
Alors là, il y a débat, mais a priori, la première recette de la bûche est en 1890. On la doit à un homme qui vient de la Dordogne et qui s'appelait Pierre Lacan. Il était à la fois pâtissier et historien, et oui, ça existe. Et comme nous sommes le 24 décembre, Apolline, je vous donne sa recette originale. Donc c'est très simple, c'est un rouleau de génoise avec de la crème au beurre, au chocolat ou au café, ça marche aussi. Et le premier à commercialiser des bûches à grande échelle, c'est Antoine Charabot, un pâtissier parisien, et ça va faire fureur auprès de la haute société. Manger de la bûche devient le comble du chic, donc oui, c'est une spécialité française. Et d'ailleurs, c'est un Français qui détient le record de la bûche la plus longue du monde. Oh. Voilà, 1,5 km de long.
Quoi?
Pour lui. 1,5 km de long. Voilà. Elle a été réalisée donc par un pâtissier de l'Eure et c'était en 2014 à l'occasion du Téléthon.
Merveilleux. Et puis moi j'aime bien les petits bonhommes, vous savez qu'il y a sur la bûche.
Voilà, oh, ils sont très mignons. Les... Faut petits... pas les manger surtout.
Non.
Parce que sinon c'est tout.
On peut manger les petits champignons en meringue.
Ceux-là, ils sont
ça
bons.
On peut les manger. Joyeux Noël à vous aussi, Joyeux Arthur Noël. Chevalier, l'historien gourmet d'Apolline Matin. Il est 7h24. 17h27 d'ailleurs, pas du tout 24. Mais ça y est, c'est l'heure, parce que c'est Noël sur RMC, c'est le jour J. Si vous voulez encore pouvoir gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5, des Switch 2 avec Micromaniazing et plein d'autres cadeaux, eh bien vous pouvez encore ouvrir une case du calendrier de l'Avent pour pouvoir gagner. Vous envoyez Noël au 7-32-16, Noël au 7-32-16. Et le gagnant sera en direct avec moi à 8h20. Donc c'est le moment de vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h30. On va vous donner aussi tous nos conseils pour ne pas tomber malade pendant Noël. On sera dans un instant avec un médecin, Antonin Ball. Ses conseils pour ne pas attraper la grippe, ne le manquez pas. A tout de suite, il est 7h28. C'est...
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Paris, Ibiza, avec une escale impromptue à Clermont-Ferrand. Nouvel incident sur un Airbus A320 hier, le deuxième en seulement quelques jours. Pour le budget de la France, on prend le même et on recommence. La loi spéciale qui le permet a été définitivement adoptée hier en attendant la reprise des débats début janvier. Et puis un épisode Paris-Moscou souffle sur la France et on s'apprête à vivre le Noël le plus froid jamais enregistré depuis 15 ans.
Décidément, une fin d'année très compliquée pour Airbus.
Qui vient de subir un nouvel incident sur l'un de ses A320 après un problème moteur samedi dernier sur un Paris-Ajaccio. Ce sont cette fois les passagers d'un vol Vueling entre Paris et Ibiza qui ont eu une grosse frayeur, Célestin Bougère. L'appareil a dû atterrir en urgence à Clermont-Ferrand.
Ah oui, vers 18h hier, l'avion s'est posé et s'est parqué sans aucune assistance. À l'origine, un problème technique mineur d'après l'aéroport de Clermont-Ferrand qui n'a pas précisé si c'était le moteur qui avait subi une défaillance. Les 164 passagers devaient ensuite embarquer dans un autre Airbus A320 de la compagnie Vueling qui arrivait de Barcelone. Un vol de remplacement prévu un peu avant 21h hier pour rejoindre Ibiza, leur destination finale. Samedi dernier, vous l'avez dit, Élise, un autre Airbus A320 reliant Paris à Ajaccio avait lui aussi été dérouté à Lyon cette fois. Des bouchons d'air s'étaient formés dans le moteur, ce qui avait obligé l'équipage à le couper et à atterrir en urgence.
À l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, c'est un incident extrêmement grave qui s'est déroulé en juin dernier et qui a donné lieu hier à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Bobigny. Après la diffusion d'images sur lesquelles on voit un enfant victime d'agression antisémite, Julie Brault.
Oui, sur ces images, un homme filmant lui-même la scène prend à partie un enfant porteur d'une kippa sur la tête. « Frère, tu vas libérer la Palestine, sinon je t'arrache ton chapeau », lui dit-il à deux reprises en anglais, alors que le petit garçon est en train de jouer à la console dans un hall de l'aéroport. L'homme lui retire alors sa manette des mains, puis lui répète « Danse, cochon, danse » dans un français approximatif, avant que l'enfant ne s'exécute quelques secondes sous la pression. Cette séquence se serait déroulée au mois de juin, selon un militant pro-israélien qui l'a diffusée dimanche dernier sur ses réseaux sociaux. Dans la foulée, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence à caractère antisémite, confiée à la police aux frontières, désormais chargée de retrouver l'homme à l'origine de cette vidéo.
Il est 7h32 sur RMC et c'est le seul point sur lequel sénateurs et députés sont parvenus à se mettre d'accord. Le Parlement a définitivement adopté à l'unanimité le projet de loi spéciale pour permettre d'assurer le financement de l'État. Concrètement, cela veut dire que le pays va continuer de fonctionner sur le même budget que cette année en attendant la reprise des débats début janvier. Et hier soir, le Premier ministre a tenu à afficher son optimisme, Thomas Becker.
Oui, parce qu'il le répète, il faut un budget à la France. Et malgré les appels au retour du 49-3, il tient sa ligne, convaincu de pouvoir arracher un compromis à une condition.
Rester à distance des calculs partisans. Le gouvernement n'est pas là pour préparer une élection, mais pour faire avancer le pays dès maintenant. C'est un travail exigeant, parfois ingrat, mais nécessaire.
En chef d'orchestre des négociations sur le budget, il isole 5 thématiques sur lesquelles un consensus serait à portée de main. L'agriculture, les collectivités locales, le logement, les outre-mer et les investissements dans la recherche, avec toujours 7 contraintes. Respecter l'objectif de 5% du déficit. Les discussions budgétaires reprendront à l'Assemblée autour du 5 janvier, ce qui n'empêche pas le Premier ministre de détailler sa feuille de route pour les mois à venir. Décentralisation, renforcement des polices municipales ou encore lutte contre la fraude. Une façon de dire qu'il n'y a pas que le budget dans la vie politique et qu'il espère, dès le mois de janvier, tourner la page budgétaire.
7h33, les services de la Poste toujours perturbés ce matin à cause de la cyberattaque dont est victime le groupe depuis lundi. Cyberattaque revendiquée hier par un collectif de hackers pro-russes. La DGSI, les services de renseignement, sont désormais en charge de l'enquête, mais la plupart des colis devraient arriver à l'heure et la hotte du Père Noël s'annonce encore bien remplie cette année.
J'ai commandé un piano, un micro, un chevalet pour la peinture, des Lego Stitch et Angel,
des Barbie, le maquillage, la coiffure.
Nous, on a demandé des enfants gentils. Aussi, j'ai demandé au Papa Noël le permis moto, moi. Et je crois que je vais l'avoir parce que j'ai été sage cette année.
Le maillot du Barça de Lamine Yamal, numéro 10, parce que j'aime beaucoup ce joueur. J'ai commandé aussi un ballon de foot du Barça.
Des Lego, parce que j'avais envie de retourner un peu en enfance. Donc, j'ai demandé des Lego Formule 1. Eux vont pouvoir enfin souffler. Ce sont les habitants de l'Hérault dont le département est sorti ce matin de la vigilance rouge et la décrue devrait se poursuivre aujourd'hui. Mais il faudra composer avec le froid qui frappe tout le pays. Météo France a déjà placé la Drôme et l'Ardèche en alerte orange, neige et verglas. Et les températures vont fortement chuter. Charlène Villemer, on peut le dire, ce sera le Noël le plus froid jamais enregistré depuis.
Moins 0,9 degrés. C'était la température moyenne au niveau national le 25 décembre 2010, selon l'indicateur thermique national. Noël 2025 sera froid, oui, mais bien loin de ce chiffre. L'indicateur thermique est estimé à 2 degrés et une température moyenne nationale de 3 degrés. C'est entre ce soir et demain que le thermomètre va chuter avec des gelées quasi généralisées. Au réveil, il fera moins 3 degrés à Lille demain et le ressenti général, lui, pourrait approcher les moins 10 degrés. En cause, cette masse d'air froid qui arrive depuis l'Allemagne, accompagnée d'une goutte froide venue d'Europe centrale, et avec elle, l'arrivée de quelques chutes de neige jusqu'en plaine. Selon Météo France, les flocons sont attendus dès ce soir dans la vallée du Rhône. Et demain, le nord de l'Aquitaine pourrait également se couvrir d'un léger manteau neigeux.
Et voilà pour ce Noël le plus froid jamais enregistré depuis 15 ans.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes, à 15h15.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Vous le savez, aujourd'hui, le favori, c'est le numéro 10, Je te cherche. Et l'outsider, c'est le 2, Chestnut.
Je te cherche, mais vous l'avez trouvé?
Moi, je l'ai trouvé, personnellement.
Oui, parce que c'est Madame Élise Zanjean. Depuis quelques jours maintenant. Félicitations, Élise.
Merci, très beau mariage
pour Noël. Il est 7h36 sur RMC. Un mot de la grippe. Attention, on va tous se retrouver. On va avoir tous envie de s'embrasser ce soir. Mais bonjour, docteur Antonin Ball. Vous êtes virologue, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires à Lyon. La grippe présente sur tout le territoire. Quelques conseils avant qu'on ne prenne éventuellement la route, le train pour se retrouver les uns les autres. Je vous écoute.
Oui, bonjour. Alors, premièrement, si on a des symptômes respiratoires, hein, de la toux, un nez qui coule ou de la fièvre, il faut mettre un masque. Surtout, il faut éviter d'être en contact avec les personnes à risque. Donc, on parle des personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et des personnes ayant des comorbidités. Ces personnes-là sont à risque de développer de formes sévères en cas d'infection. Donc, c'est très important.
Donc, il faut les protéger. C'est à nous de les protéger.
Exactement, et on le protège. La première mesure, les mesures barrières, la première, c'est de mettre un masque. Ensuite, il faut bien se laver les mains, puisqu'il peut y avoir des transmissions dites manuportées, et aérer les différentes pièces des maisons.
Oui, ne pas oublier d'aérer, même s'il va faire très froid, il faut absolument ouvrir les fenêtres et faire des courants d'air aérés. Le pic, il pourrait être atteint juste après Noël, le pic de la France métropolitaine, hein, on le dit, et d'ailleurs en alerte globalement toutes les régions, hein, sur la grippe.
Oui, toutes les régions sont touchées. On s'attend au pic la semaine prochaine. Après, l'épidémie va encore durer, hein, va encore durer encore plusieurs semaines. On peut avoir aussi une recrudescence en fin de saison. La particularité de cette saison, c'est la co-circulation de différents virus grippaux, avec notamment le virus H3N2 qui prend de l'ampleur ces dernières semaines.
C'est une grippe sévère.
Alors pour l'instant, la sévérité, c'est difficile de l'estimer à ce stade, mais on sait que quand le virus H3N2 circule, on a des épidémies qui sont plus sévères.
Des épidémies plus sévères. Est-ce qu'il est encore temps de se vacciner ou est-ce que c'est trop tard?
Oui, oui, il est toujours temps de se faire vacciner. Comme je l'ai dit, une épidémie, c'est assez long. C'est en moyenne entre 10 à 12 semaines d'épidémie. Donc, il est toujours temps de se faire vacciner. On commence à développer des anticorps à peu près 10 jours après la vaccination et on est protégé au bout de 2 semaines. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des données sur l'efficacité du vaccin, notamment contre les formes sévères. Ce sont des données anglaises. Et il y a une bonne efficacité du vaccin cette saison contre les formes sévères.
Donc ça marche, il marche bien cette année. La question aussi de la tension sur les hôpitaux, est-ce qu'on sait si ça reste fluide ?
Pour l'instant, ça reste fluide, mais on va suivre ça de près, puisque quand le virus qui circule est majoritairement du virus H3N2, on sait qu'on a un recours aux soins très important.
On parle plus du tout du Covid ?
Il y a très très peu de Covid actuellement. Il y a une circulation qui est encore observée chez les personnes de plus de 65 ans, mais ça a vraiment diminué depuis plusieurs semaines maintenant. Oui.
Merci beaucoup Antonin Ball, virologue et directeur adjoint du Centre National de Référence des Virus Respiratoires à Lyon, de nous avoir donné donc ces derniers conseils avant effectivement de se retrouver en famille. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et il y a Jean-Claude qui est avec nous pour nous partager son Noël. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Apolline, bonjour RMC.
Jean-Claude, joyeux Noël. Où serez-vous ce
Merci.
Soir ? Vous êtes dans le Pas-de-Calais, c'est ça ?
Oui, alors c'est une petite commune à côté de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle Le Portel.
Le Portel, et vous serez autour d'un repas ?
Oui, avec les enfants, la plupart de mes enfants, j'ai 3 garçons, et il y en a qu'un simplement qui ne peut pas venir parce qu'il habite à Toulouse.
D'accord.
Et puis ma petite belle-mère, bien entendu, faut pas l'oublier.
Ah, faut pas l'oublier, donc il y aura 3 générations, 4 générations ?
On va dire 4 générations, effectivement, avec mes 2 petits-enfants sur les 4.
C'est merveilleux, et alors qui cuisine ?
C'est moi.
C'est vous, vous avez préparé quoi ?
Alors, il va y avoir du foie gras, bien entendu, bien sûr, avant l'apéritif. Après, je vais concocter des bouchées aux fruits de mer avec une sauce béchamel à l'intérieur. Ensuite, je vais faire des Saint-Jacques au safran sur un tapis de poireaux émincés marinés dans du vin blanc. Et des épices.
La petite acidité des poireaux au vin blanc avec
classique.
Le... Oh là là, ça va être très très
classique.
Bon ça. Vous avez une bûche pour le dessert ou pas, Jean-Claude ?
Oui, bûche glacée et bûche pâtissière, selon la convenance des convives. Et j'oublierai jamais de dire le plum pudding du boulonnais.
Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dis donc, racontez-moi.
Alors, j'ai envoyé des photos... pour vous le montrer, le pudding, c'est en fin de compte un mélange de fruits confits avec du sucre vergeoise. Alors, je vais certainement oublier des ingrédients, mais je rajoute de la bière brune, avec modération, bien évidemment.
Ça, c'est la version, effectivement, du boulonnais, du coup.
Voilà, c'est, en fin de compte, le pudding, c'est comme beaucoup de certains plats typiques, c'est que... Personne ne le fait de la même manière, mais ils sont tous aussi bons.
Chacun sa tradition. Voilà. Jean-Claude, merci d'avoir partagé. Je trouve ça merveilleux, en fait. On a l'impression de partager à chacun vos Noëls. On vous embrasse fort, ainsi que la petite belle-mère, vos fils et vos petits-enfants. Il est 7h42 sur RMC. Et dans un instant, cette question, est-ce qu'il y aura une trêve de Noël ou une poursuite des blocages pour les agriculteurs. Bonjour Stéphane Gallet.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne, syndicat agricole, et vous étiez hier à l'Élysée. Vous avez rencontré Emmanuel Macron, première fois qu'il vous reçoit depuis le début de cette colère à nouveau. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Est-ce que vous allez mettre sur pause le mouvement ? Vous nous répondez dans un instant. Il est 7h42 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, c'est enfin Noël. Il est 7h43 sur RMC. Alors première rencontre des syndicats agricoles avec Emmanuel Macron depuis le début du mouvement des agriculteurs.
Ça s'est monté, semble-t-il, de manière un peu impromptue. Hier après-midi, vous l'avez enfin rencontré. Stéphane Gallet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne, troisième syndicat agricole, et aujourd'hui l'un des jusqu'au boutistes, si je puis me permettre, c'est-à-dire ceux qui, jusqu'au bout, considèrent qu'effectivement, il faut poursuivre la mobilisation. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a convaincu d'une forme de trêve, voire même de calmer la colère?
Bah, pas vraiment, en fait. Non. Je pense que c'était un peu l'objet du rendez-vous, c'était de calmer le feu dans les campagnes, mais on ne nous a rien à amené comme engagement politique et comme engagement structurel, en fait, pour répondre à la colère des paysans et des paysannes. Ni sur la DNC, ni sur le fond, parce que la DNC, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Hein. Le fond, c'est le revenu des paysans, la transmission des fermes, puis la crainte aussi des futures maladies, des futures épizooties, et aussi la crainte par rapport au réchauffement climatique. Enfin, toutes ces questions-là qui sont des questions importantes.
Et qui sont des questions structurelles pour vous.
Oui, et on n'a pas de réponse à ça. Bon, il nous a parlé évidemment du Mercosur, il nous a parlé de la PAC, mais en tout cas, il a une vision de l'agriculture qui nous inquiète, parce qu'il reste accroché à la compétitivité et à la mise en concurrence des paysans les uns avec les autres.
Alors, si on prend ces deux points en particulier, le Mercosur et la PAC. Sur le Mercosur, d'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a redit hier soir, il dit le compte n'y est pas, et donc en l'état, il n'y a pas de signature. Est-ce que vous leur faites confiance là-dessus?
Ben, nous, on lui demande depuis le départ, il y a une opposition ferme. Hein. Donc, le « en l'état », pour nous, ça marche pas. Le fait d'aller chercher des clauses de sauvegarde, des mesures miroirs, on sait que ça...
Vous voulez pas de Mercosur, point barre.
Oui, point barre, et on lui a répété. Il n'y a pas de « en l'état » ou peut-être que c'est non, et c'est tout. Enfin, le Mercosur, c'est un accord qui est de la dérégulation du commerce. On n'est pas contre le commerce, on est contre le fait que ça soit dérégulé. De toute façon, les mesures miroirs, ils prennent pas en compte le coût du salaire, le coût des infrastructures qui sont forcément différents. Il y a un différentiel de compétitivité sur les bovins de 60% qui est pas lié à l'usage des pesticides ou autre, c'est lié au coût du travail, encore une fois, au différentiel d'infrastructures, au différentiel de pouvoir agronomique. Donc on sera jamais compétitif avec les pays du Mercosur. Mais c'est pas l'objet, c'est qu'on travaille sur notre souveraineté alimentaire, et en tout cas, c'est pas en appauvrissant l'agriculture française qu'on va y arriver.
Donc pas de Mercosur, ça vous n'en voulez pas. Stéphane Gallet, sur la question de la PAC, certains, et on le sent bien, il y a une forme de division là-dessus, reprochent beaucoup de choses à l'Europe. Est-ce que vous considérez quand même qu'aujourd'hui, en termes de PAC, c'est-à-dire de politique agricole commune, la France reste quand même bénéficiaire?
Oui, alors après, il nous a fait part des craintes de baisse de budget, hein, et il travaille... C'est ce qu'il dit, en tout cas, qu'il travaille sur le fait de maintenir un budget constant pour la France. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle s'il s'engage là-dessus. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de la PAC? Encore une fois, la PAC, elle va plutôt dans le sens de la compétitivité et dans le sens de l'agrandissement des fermes. On voit la disparition des fermes depuis des années et des années. Nous, on lui a dit, hein, par rapport encore une fois aux enjeux d'alimentation, de transition agroécologique et aussi de maintien des paysans dans les campagnes, qu'il faut revoir les orientations de la PAC. C'est un levier très fort. Ça ne peut pas rester, en fait, un levier pour accélérer la disparition des fermes.
Vous serez où ce soir, Stéphane Gallet?
Je serai chez moi ce soir.
Je serai chez vous ce soir. La question, c'est aussi de savoir si il reste quand même des agriculteurs qui veulent mener la bataille jusqu'au bout. Jérôme Bail, sur la 64, dit qu'il réveillonnera sur place, sur le blocage de l'autoroute. Est-ce que vous comprenez cette démarche?
Ah ben moi, je la comprends complètement. La colère, je l'ai exprimée au président de la République. Et j'ai eu vraiment le sentiment d'une déconnexion dans notre dialogue, en fait. C'est qu'il ne le ressent pas. Ce qu'on peut vivre dans les campagnes, et je pense que c'est un peu ça le drame. Il ressent pas, en fait, la réalité des paysans, des paysannes, le désespoir aussi, parce que en fait on n'a pas envie, nous tous et toutes, de passer le Noël sur un rond-point. Si on le fait, c'est qu'il y a un vrai message de désespoir, de volonté de changement, et j'ai vraiment l'impression qu'il a pas entendu ça, mais parce que je vous le dis, il est déconnecté, et c'est inquiétant.
Ça vous inquiète profondément quand vous dites vous serez chez vous ce soir, mais est-ce que dans les jours qui viennent, vous allez continuer à soutenir cette mobilisation? Est-ce que vous estimez que ça doit continuer à passer par des blocages?
Oui, parce que en fait, on n'obtient rien. Donc la pression, il faut qu'on continue à la mettre, en fait. Et il faut qu'il entende la voix des paysans, des paysannes. Depuis le début, ça fait 6 mois, sur la DNC en particulier, qu'on alarme sur le fait que cette stratégie-là, elle est délétère pour l'élevage, elle est délétère pour les paysans, les paysannes. Ils n'entendent pas. bah, ils ont un peu peur, là, j'ai le sentiment du fait qu'on reste dans les rues et que ça s'accélère, bah, on va rester dans les rues et on va faire en sorte que ça s'accélère. Si c'est ça le seul moyen pour se faire entendre des politiques, bah, on va continuer parce que c'est nos vies qu'on joue, en fait, c'est l'avenir de nos fermes. S'ils sont sourds à ça, tellement ils sont déconnectés de la réalité, bah, nous, on va leur faire comprendre.
Et vous avez décidé de leur faire comprendre, effectivement, sur le long terme. Merci Stéphane Gallet d'avoir pris le temps de venir dans ce studio avant de retourner chez vous et après effectivement avoir rencontré donc Emmanuel Macron hier soir. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Il est 7h49. Il est plus trop temps, mais quand même un peu, d'aller trouver les tout derniers cadeaux. Et vous le savez, toute la semaine, l'indispensable Louise Salé avec les cadeaux indémodables. Bonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Ce matin, quelle est la valeur sûre que vous nous recommandez?
Alors c'est le champion du monde, hein, des jouets imbattables, incontournables, indémodables. Je veux bien sûr parler de Lego.
Lego, et donc l'imbattable Lego, ça va nous faire rêver dans un instant. Il est 7h49.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC. Ce matin, Victor, vous nous parlez de la success story d'une femme de ménage.
Bonjour, Milly.
Bonjour, Madame Winchester.
Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez.
La femme de ménage, c'est le titre du film qui sort en salle aujourd'hui. L'histoire de la jeune Milly qui débarque chez les Winchester. Une famille bien plus sombre qu'il n'y paraît.
Je vous fais faire le grand tour. Pour que vous voyez dans quoi vous mettez les pieds.
Et c'est surtout l'adaptation d'un livre, d'un best-seller que personne n'avait vu venir. Personne ne connaissait l'autrice Freda McFadden début 2023 en France. Elle est pourtant en passe de devenir la plus vendue pour la deuxième année consécutive.
J'ai un excellent pressentiment, Milly.
Moi aussi.
Ok, je vous tiens au courant.
Et avec ces 5 300 000 livres écoulés de cette saga, les producteurs aussi ont un bon pressentiment.
RMC, Apolline Matin.
Et dans un instant, Louise qui nous fait découvrir les toutes dernières tendances des Lego. Mais d'abord, on partage le réveillon de Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Pierre-Yves, artisan boulanger à Ardoye en Ardèche. J'imagine que là, vous êtes vraiment sur le pont, Pierre-Yves.
Sur le pont, en dessous, sur le côté, on ne sait même plus où on est d'ailleurs.
On ne sait même plus quelle heure il est. Il est 7h51, je vous le dis.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'effectivement, c'est une journée extrêmement chargée. Vous êtes artisan boulanger. À quoi vous vous attendez pour cette journée?
On s'attend à. C'est déjà tout programmé, donc on s'attend. On sait à quoi s'attendre, ça, c'est sûr.
Vous avez quoi là dans la boutique?
Énormément de commandes de bûches.
Bien sûr.
Ouais. Voilà, et puis bon, du pain, ouais, on a 31 sortes et variétés de pain différentes. Énormément de travail, quoi.
Les clients sont déjà là à 7h52?
Il y en a déjà qui sont passés, oui. Ça va s'étaler sur toute la journée, puis on remet ça demain, ainsi de suite.
La bûche, vous la faites comment, Pierre-Yves, chez vous?
Alors nous, on a 4 sortes de bûches pâtissières.
Ok.
4 sortes de bûches mousse et 4 sortes de bûches glacées.
Ah oui, dis donc. La tendance, c'est quoi cette année?
La pâtissière reste en tête. Hein. La bûche chocolat, évidemment. La chocolat, la vanille, part pas mal aussi. Hein.
Ok. Et vous en avez une au fruit?
Ah oui, au fruit, on a la Moulin Rouge.
La Moulin Rouge? Elle est comment, cette Moulin Rouge?
Base de fruits rouges. Je vais vous dire exactement la composition.
Allez-y.
Alors, la Moulin Rouge, c'est un biscuit madeleine, framboise, mousse passion, compoté d'ananas.
Vous m'en mettrez deux. Vous m'en mettrez deux, Pierre-Yves, de côté.
Il y a pas de problème.
Ça commence à me faire rêver. Redites-nous le nom de la boulangerie, Pierre-Yves.
Allez, c'est la boulangerie au Vieux Pétrin. Je suis à Ardoye, dans le Nord Ardèche.
Allez, au Vieux Pétrin, à Ardoye, en Ardèche. Si vous passez dans le coin, c'est la grande famille RMC. Joyeux Noël à vous, Pierre-Yves. Très belle journée. Elle va être intense et on vous le souhaite parce que c'est une belle journée aussi pour le commerce. Il est 7h53. Est-ce qu'il est encore temps? Les Lego, si vous n'avez pas mis de Lego sous le sapin, eh bien franchement, ce serait bien dommage. Les jeux de construction, rebonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Ça c'est les indémodables absolument, ce qu'on trouve sous les sapins depuis 20 ans.
Oui absolument, je ne pouvais pas passer à côté du numéro 1 mondial du jouet, hein, le danois Lego, ces petites briques qui traînent hein, et sur lesquelles on peut se faire très mal en marchant dessus, en
les
chaussettes.
Coups de maman.
Je sens qu'il y en a quelques-unes qui traînent dans la chambre de vos enfants.
En chaussettes encore ça va, c'est pieds nus que c'est dur.
Ouais, c'est encore plus dur. Et Lego donc a pris son essor hein, juste après la seconde Seconde Guerre mondiale. Donc quand on parle d'indémodable, eh bien on tape dans le mille ces dernières années. Après le confinement, les ventes ont explosé. Pour vous donner une idée, depuis le début de cette chronique, eh bien une bonne centaine de boîtes Lego ont été vendues dans le monde.
Oui, parce que toutes les secondes, ce sont vraiment des boîtes Lego qui partent. C'est quoi la stratégie de Lego pour aussi bien marcher et se renouveler?
Alors vous avez remarqué que les Lego d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. On ne retrouve pas tout à fait les mêmes modèles en magasin.
Mais d'ailleurs, quand on était petit, il n'y avait pas vraiment de modèles. C'est-à-dire, en fait, on achetait des boîtes avec plein de briques, mais il n'y avait pas forcément de trucs à fabriquer, quoi.
Exactement. Alors, ça existe encore, mais ce qui marche vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ces modèles avec le mode d'emploi, la notice. On va y passer un certain nombre de temps. Et c'est parce que Lego, eh bien, s'est associé à de célèbres licences. Star Wars, Harry Potter, Formule 1, vous en connaissez d'autres.
Ouais, les Lego Ninjago, ça c'est mes voilà. Fils, ils adorent les Ninjago.
On sent le vécu. Ouais.
Il y en a plein, il y a Marvel, Disney, mais Formule 1, c'est quand même une licence qui marche très fort cette année. La voiture de course, c'est l'un des Lego les plus vendus en France à Noël, d'après le cabinet Circana. Et je vous ai rapporté donc une Mercedes de la gamme Lego Technique. Wow. Alors, c'est près de 1642 pièces. On peut y passer du temps. Et si vous voyez, il y a un petit logo 18 ans et plus. En fait, c'est vraiment un Lego pour adultes. Et c'est ça vraiment la force de Lego, c'est que c'est à la fois pour les enfants et pour les adultes, pas que des garçons, des filles aussi, en leur proposant pas seulement des voitures, on a aussi des œuvres d'art par exemple, qu'on peut reproduire, on peut aussi en réaliser soi-même. Et Jade, 9 ans, a réalisé justement un tableau dans un lieu dédié au Lego à Paris.
J'ai voulu faire un peu quelque chose qui est un peu imaginaire. Un endroit où il y a plein de fleurs. Et c'est vrai que c'est bien d'imaginer des choses, de faire des histoires avec les Lego. Tu peux construire et vraiment faire ce que tu veux.
Et Jade ne joue pas que toute seule. Elle s'amuse aussi avec sa mère Delphine.
Régulièrement, on achète des boîtes de fleurs et on fait grossir notre bouquet de fleurs Lego. Ça. Vu que j'ai pas la main verte, les Lego me sauvent pour mettre un peu de fleurs dans la maison.
Ces fleurs Lego cartonnent en tête des ventes. Je vous en ai amené une. C'est une orchidée.
Oh là là, elle est géniale.
Ouais, voilà.
C'est très jolie.
Ça. Exactement. Ça peut être
un objet déco. Quoi.
Exactement. Et le petit hic, alors quand même, c'est que les Lego sont en plastique. La marque cherche à fabriquer des briques en plastique recyclé, mais n'y arrive pas encore.
Il n'y a pas que les Lego, Louise. D'ailleurs, en termes de jeux de construction, il y a les jeux en bois.
Oui, et là, on a un français, Capla. Ça aussi, Capla. C'est historique. Ces petites planchettes de bois rectangulaires qu'on empile pour réaliser une construction. Le siège est près de Bordeaux, c'est du Pin des Landes. Victor, vous vous souvenez d'une petite construction que vous avez réalisée en Capla?
Non, j'étais trop nul, je faisais tous s'écrouler.
Ah là là, moi j'ai fait des tours, mais des tours plus hautes que moi. Et après on porte les enfants pour qu'ils aillent mettre en haut de la tour, le plus haut possible, quelques Capla.
C'est ça, exactement. Alors on en trouve surtout dans les écoles, les centres de loisirs. C'est comme ça que Capla s'est développé. En fait, c'est surtout un jeu éducatif qui est devenu une référence pour faire travailler la représentation dans l'espace, mais aussi stimuler la créativité. Et l'imagination.
Merci beaucoup Louise, très joyeux Noël à vous et à vous tous qui nous écoutez. Louise, on se retrouve demain matin 7h50 avec vos idées de cadeaux indémodables sur RMC. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant. Évidemment le journal de 8h avec plus que quelques heures avant le réveillon de Noël, les derniers préparatifs. On sera en direct de Strasbourg sur un marché. Et puis la météo, il fait très froid pour ce Noël. Juste après le journal, il y aura l'économie. Et ce matin, c'est avec Pierre Rondeau parce que Manu Le Chypre est en train de monter.
Il est parti en vacances, oui.
Manu Le Chypre est un passionné de Lego. Pierre, les virements, attention, sont suspendus pour 4 jours à partir de ce soir.
Oui, les banques prennent aussi à leur tour des vacances. Mieux vaut prévoir.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h. Très joyeux Noël à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pas de visa américain pour Thierry Breton, l'ancien commissaire européen interdit d'entrer aux États-Unis, sanctionné par Washington pour son rôle dans la régulation des géants du numérique. Un industriel français à la rescousse de l'usine Brandt d'Orléans, un projet annoncé dans la matinée près de 2 semaines après la liquidation du fabricant d'électroménager. Et puis dans la famille Zidane, je demande le fils cadet, Lucas Zidane, pourrait jouer sa première sélection en grande compétition avec l'Algérie à la CAN cet après-midi, match contre le Soudan.
Mais d'abord, plus que quelques heures avant le réveillon de Noël.
Et oui, encore un peu de patience et de travail, peut-être les derniers cadeaux à acheter. Et surtout, le repas à préparer, c'est la dernière ligne droite. Lucille Pascanet, vous êtes en direct des Halles du Marché-Gare à Strasbourg, où les commerçants s'apprêtent à vivre la journée la plus chargée de l'année.
Oui, leurs premiers clients sont arrivés dès l'ouverture ce matin à 7h pile. Parmi eux, Georgette, retraitée, elle fait tous les ans ses courses du réveillon le 24 décembre très tôt. Et ce matin, elle a rempli son panier de douceur pour sa table de ce soir.
J'attends le dernier moment, comme ça tout est frais.
Et qu'est-ce que vous avez pris ce matin?
Alors, un assortiment de pâtisseries, parce que ma famille n'est pas très bûche, et surtout du bon pain.
C'est ça le plus important. Est-ce que vous avez acheté d'autres choses? Est-ce que vous allez acheter de la viande? Est-ce que vous allez acheter des légumes aujourd'hui, ou tout est déjà prêt?
Non, ça s'est fait en début de semaine, je l'ai fait ici.
Bon, Georgette a déjà fait son choix de volaille, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de Français. Jean-Noël Friedrich, charcutier traiteur, achalandait tout à l'heure son étal pour les nombreux retardataires.
Oui, toujours, les clients s'y prennent de plus en plus tard, ils n'anticipent pas trop, mais on essaye toujours d'en avoir pour tout le monde. Après, il n'y a pas de souci, on trouvera toujours quelque chose pour contenter les clients. Bah, aujourd'hui, je pense qu'on va sortir pas mal de foie gras, toutes les volailles encore qui restent. On a beaucoup de caviar, on a les huîtres qui vont sortir, les Saint-Jacques, les crevettes, les gambasses. Il y aura pas mal de choix, effectivement.
Bon, il l'assure, hein, il y en aura pour tous les clients qui sont déjà nombreux ce matin. Il y a la queue à presque tous les étals. Le marché les accueillera pour leurs derniers achats jusqu'à 14h.
Lucille Pascanet en direct du Marché-Gare de Strasbourg. Les cadeaux de Noël qui n'arriveront peut-être pas à temps pour être au pied du sapin. Les services de la Poste encore perturbés par la cyberattaque, toujours en cours. Même si elle a perdu en intensité depuis lundi, dit le groupe qui a porté plainte. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure est saisie. L'attaque est revendiquée par des hackers pro-russes. Noël sous sécurité renforcée. 10 jours après l'attaque antisémite à Sydney en Australie, en France, une menace terroriste. Guillaume Biet, chef du service police-justice, les autorités appellent à la plus grande vigilance.
Oui, dans un télégramme officiel adressé à tous les préfets de France, le ministre de l'Intérieur évoque d'emblée, je cite, « le niveau très élevé de la menace terroriste qui exige, selon lui, le maintien d'une extrême attention vis-à-vis des lieux de culte et des cérémonies religieuses ». Voilà pourquoi ces derniers jours, dans chaque département, les préfets ont adapté leur dispositif en fonction des événements prévus et mis en place des patrouilles visibles et dissuasives aux heures des célébrations tout à l'heure, notamment à l'arrivée et au départ des fidèles, si besoin, en modifiant la circulation en coopération avec les maires. Tout comme en accord avec les procureurs locaux, les forces de l'ordre pourront contrôler les identités, fouiller les sacs ou les véhicules, appuyés également par la présence des militaires de la force Sentinelle.
Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC. Il n'est plus le bienvenu aux États-Unis. L'ancien commissaire européen Thierry Breton interdit de visa avec 4 autres personnalités européennes. Antoine Hollard, correspondant d'RMC et de BFM TV à Washington, l'administration Trump l'accuse de censure.
Oui, en fait, ça fait un moment que Thierry Breton est dans le viseur des patrons de la tech, à commencer par Elon Musk qui le déteste. Son tort, c'est d'avoir pris, quand il était commissaire européen, des mesures extrêmement strictes pour encadrer les activités des géants du web, pour les obliger notamment à lutter contre la haine en ligne ou la désinformation. Ces mesures coûtent beaucoup d'argent aux plateformes américaines. Il y a quelques semaines, par exemple, l'UE a infligé une amende de 140 millions à X, la plateforme d'Elon Musk. Et aujourd'hui, eh bien, les Américains se vengent. Alors, officiellement, l'administration Trump explique que Thierry Breton s'est rendu coupable d'une censure intolérable contre les intérêts américains, mais clairement, il s'agit d'une mesure vexatoire. Le Français se retrouve sur la liste noire des personnes interdites de séjour aux États-Unis, au même titre que des terroristes de l'État islamique ou des trafiquants de drogue. C'est aussi pour Washington une façon d'intimider les Européens. Marco Rubio, le chef de la diplomatie, dit que d'autres personnalités pourraient être ajoutées à cette liste. Tout ça dans un contexte où Donald Trump multiplie les attaques contre l'Union européenne et fait pression pour que l'Europe abandonne ses réglementations contre les géants du web.
Thierry Breton qui a réagi sur son compte X et dénonce un vent de maccartisme, référence à la chasse aux sorcières anticommunistes aux États-Unis dans les années 50, sanction aussi dénoncée par le ministère des Affaires étrangères. Un rebondissement inespéré pour Brandt, son usine d'Orléans pourrait être reprise près de 2 semaines après la liquidation du fabricant d'électroménager. Un projet sera présenté en fin de matinée, 11h par un industriel français, annonce la mairie qui parle d'une solution crédible et ambitieuse.
Célestin Bougère en direct avec nous ce matin. Un industriel dont on ne connaît pas encore l'identité.
Oui, on sait seulement que c'est un industriel français avec une solide expérience nationale et internationale d'après la mairie d'Orléans qui indique que le projet de reprise vise la réindustrialisation du site de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans l'agglomération orléanaise et le réemploi des salariés. Il est toutefois pas précisé si les 350 ouvriers de l'usine sont concernés par ce projet de reprise et s'ils conserveront tous leur emploi. Le ministère de l'économie a lui appelé à ne pas se précipiter. Il assure poursuivre ses consultations auprès des élus et des repreneurs potentiels. L'objectif, avoir le projet le plus solide et le plus pérenne possible. Un appel d'offres pour la reprise de l'usine doit justement être lancé courant janvier, a précisé Bercy. Après l'annonce de la liquidation de Brandt le 11 décembre dernier, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, avait souligné qu'un projet industriel restait possible, mais pas forcément dans le secteur de l'électroménager.
Les précisions de Célestin Bougère pour RMC. La loi spéciale définitivement adoptée par le Parlement pour faire fonctionner le pays sans budget, mais le gouvernement n'a pas dit son dernier mot. Sébastien Lecornu se dit persuadé de pouvoir aboutir à un accord en janvier à la reprise des discussions budgétaires. Le Premier ministre, qui dans une allocution télévisée hier a aussi dévoilé sa feuille de route pour les prochains mois, avec un projet de loi qui doit permettre de rassembler les aides sociales en une seule, une allocation sociale unique pour lutter contre la fraude sociale, pour garantir aussi que les revenus du travail soient toujours plus importants que ceux de la solidarité, dit-il, argument pourtant contredit par une récente étude de l'OFCE, Lucas Laubert.
Oui, cette étude montre que les bénéficiaires de prestations sociales ont tout à gagner à reprendre une activité professionnelle. Prenons l'exemple d'une personne seule, sans activité. Elle perçoit au total 851 euros d'aide, selon les calculs de l'étude. En reprenant un emploi au SMIC, son revenu disponible, comprenant salaire et aide, doublerait presque avec plus de 1600 euros. Même un mi-temps au SMIC rapporte plus que les aides, pointe l'étude. Guillaume Allègre en est l'un des deux auteurs. Selon l'économiste, l'idée que les bénéficiaires puissent gagner plus que des travailleurs n'est qu'une vieille idée reçue.
Dans tous les cas de figure que l'on montre, les chiffres montrent le contraire, qu'on ait 0, 1, 2, 3 enfants, qu'on vit en couple, que son conjoint est un chômeur, qu'il ait un revenu au SMIC. Quand on montre ça même à des économistes, des personnes qui devraient savoir, parfois on a l'impression de les surprendre. Quoi.
Un retour à l'emploi d'autant plus intéressant que les salaires peuvent vite augmenter, souligne l'expert. 5 ans après la reprise du travail, les travailleurs gagnent 20% de plus en moyenne.
Il faisait partie des 4 blessés de l'explosion d'une usine chimique près de Lyon à Saint-Fons lundi. Un homme de 47 ans est mort. Il est décédé des suites de ses brûlures. En Russie, 2 policiers tués cette nuit à Moscou par un engin explosif alors qu'ils inspectaient les lieux où un général russe est mort il y a 2 jours. Il tentait d'arrêter une personne suspecte.
Le fils Zidane peut être sur le terrain aujourd'hui pour le premier match de l'Algérie à la CAN.
Les Fenech lancent leur compétition contre le Soudan à 16h et il y aura peut-être donc dans les cages un certain Zidane, Lucas Zidane, fils cadet de Zizou, qui a rejoint la sélection algérienne il y a 2 mois. Ce pourrait être sa première sélection dans une grande compétition. Et c'est un événement, Nicolas Pelletier et Valentin Lorca.
Oui, depuis son arrivée en sélection en octobre dernier, Lucas Zidane est devenu la curiosité de cette équipe algérienne.
Pour nous, c'est un Zidane qui vient jouer naturellement dans son pays.
Smaïl Mohamed, journaliste pour le quotidien algérien Compétition.
C'est un gardien de but, c'est tout à fait différent. Il a montré qu'il avait cette préférence pour l'Algérie et le peuple, on est content.
Depuis 24 heures, les journaux algériens sont en boucle sur le gardien de l'équipe nationale. Le capitaine Riyad Mahrez balaie l'idée d'un traitement spécial pour le fils de Zizou.
C'est vrai que son nom, il est lourd à porter, mais bon, il se prend pas la tête, il est bien intégré avec nous et il est content.
Passion oblige, les supporters des Fenech sont nombreux à Rabat et forcément, le nom de Zidane ne laisse pas indifférent.
Là, c'est le moment de se faire un nom. Après, il faut se faire un nom à part parce que forcément, il va avoir la pression au vu de le nom de famille qu'il a.
Il va aussi, on va dire, faire arrêter ceux qui l'ont critiqué parce que apparemment, il a choisi l'Algérie pour la Coupe du Monde, mais je pense qu'il a sa place.
Ce soir, de nombreux supporters regarderont la tribune officielle avec attention, au cas où Zizou ferait une apparition pour voir le premier match dans une grande compétition de son fils.
Match à 16h à vivre sur RMC, radio officielle de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Le journal de Clara Gabillet, il est 8h09 et on part au bord de la mer dans les Bouches-du-Rhône retrouver Daniel. Bonjour Daniel.
Ostriculteur,
je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes sur le bateau ou à quai au moment où on se parle, mais vous êtes en tout cas à Port-Saint-Louis-du-Rhône. En cette journée, j'imagine que vous êtes c'est d'abord sur le pont évidemment, puisque s'il y a bien un jour où on rêve tous de manger des huîtres, c'est aujourd'hui.
Eh ben, c'est exactement ça. Je viens tout juste d'enlever les gants. On est en plein écaillage ce matin. Donc, c'est plus le moment d'aller à la mer pour récolter les huîtres. Après l'heure, c'est plus l'heure, comme on dit.
Ok. Là, donc là, aujourd'hui, vous les mettez dans les cagettes?
Exactement.
Dans les bourriches?
On les met dans les bourriches, on les ouvre, on les met sur les plateaux pour nos clients qui viennent directement récupérer à la ferme les produits et pour profiter d'un bon moment. C'est le moment de l'année où on va faire le plus gros chiffre. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur les blocages qu'il y avait eu avec nos confrères agriculteurs.
Oui, parce que vous le dites, le mot ferme, c'est vrai qu'on oublie, mais ostréiculteurs, vous êtes vous-même les agriculteurs de la mer.
Exactement, vous avez employé le mot juste, on est des agriculteurs de la mer. On aurait aimé être beaucoup plus solidaires avec nos confrères, mais on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette période-là. Exactement.
C'est un moment trop important pour vous, mais les difficultés, vous y faites face aussi.
On y fait face et on a cette résilience, je pense, comme nos confrères agriculteurs, où on n'attend pas qu'on vienne nous trouver des solutions. On prend le taureau dans les cornes, comme on dit chez nous, pour avancer, pour aller de l'avant. Mais les consommateurs nous font confiance et jouent le jeu.
Ouais.
Je tenais à le préciser également.
Ça, vous le sentez, c'est-à-dire que, bon, alors en plus, l'huître, il y a quand même un côté aussi très français, c'est-à-dire qu'on consomme de l'huître française.
Cocorico, on consomme de l'huître française en France et on en exporte également énormément à l'étranger. On en exporte énormément, je pense que ça doit représenter plus de la consommation, de la production nationale doit être envoyée à l'export. Ça fait rayonner notre pays et c'est très important aussi. C'est très important à le garder en tête.
Ouais, on l'a en tête. Merci Daniel en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Je suis très heureuse, je crois que c'est la première fois que je vous accueille à l'antenne, non Daniel ?
C'est la première fois. Je vous écoute beaucoup, j'écoute énormément RMC. Je suis désolé, le matin je bosse un peu, donc le soir normalement.
Mais bien
parce que
sûr.
Je suis un sportif, j'aime bien le foot.
Mais je suis heureuse d'être avec vous aussi le matin de temps en temps, même si c'est le moment effectivement où ça bosse. Mais c'est une seule et même famille, RMC. Daniel, très belle journée à vous, elle va être intense effectivement. Et merci d'avoir rayonné et de faire rayonner aussi la France. Il est 8h12, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Avec vous Pierre Rondeau, bonjour Pierre. Ce matin vous nous alertez, attention, on ne pourra plus faire de virements interbancaires à partir de ce soir.
Exactement, le système international SEPA va être mis sur pause entre aujourd'hui, mercredi 16h30 jusqu'au dimanche 28 décembre inclus. Alors pourquoi ? Parce que le système international de virements et son outil Target 2 ferment les week-ends et les jours fériés. Et là nous allons enchaîner le 25 décembre, jour férié dans tous les pays de l'Union Européenne. Le 26 décembre, le Boxing Day, jour férié dans les pays anglo-saxons. Puis le week-end, 4 jours d'arrêt qui vont contraindre plus de 310 millions de clients. Si vous aviez besoin de faire un virement, de payer votre loyer ou de participer à une cagnotte pour Noël, tout sera mis à l'arrêt. Pire encore, si votre salaire devait tomber à la fin du mois, il ne tombera pas avant lundi prochain.
C'est quand même assez compliqué, ça peut poser des problèmes pour un certain nombre de salariés.
Alors techniquement, la chose est connue depuis longtemps. De nombreuses sociétés ont d'ailleurs décalé le versement des salaires au début de semaine, ou ont carrément fait des avances sur salaire. Si vous êtes concerné, anticipez bien ce changement, parce qu'il va avoir un décalage. Si vous touchiez votre salaire habituellement aux alentours du 28, et qu'il va tomber ce mois-ci, le 22, 23, en tout cas avant, de fait, il tombera plus tard le mois suivant, plus de 30 jours. Donc attention aux découvertes. De même, attention aux prélèvements automatiques de fin de mois, pris sur la carte bleue, comme un abonnement à Netflix ou à la salle de sport. Prévoyez des fonds sur votre compte.
Comment peut-on faire si là, on doit absolument en urgence faire un virement ?
Alors pensez aux virements instantanés via certaines applications qui ne sont pas concernées par le système SEPA et qui restent opérationnels. Mais faites bien attention à ce type de virement. Ils sont instantanés, immédiats, donc aucun rappel de fonds possible, aucune annulation possible, aucune opposition. Quand c'est confirmé, c'est confirmé. Et si vous avez été victime d'une arnaque ou vous êtes trompé dans le destinataire, vous ne pourrez rien faire. D'ailleurs, la Banque de France le précise, c'est à consommer avec modération. Donc dans tous les cas, le meilleur conseil que je peux vous donner, faites tout ce matin après la matinale ou alors attendez lundi prochain.
Merci beaucoup Pierre Rondeau avec nous ce matin. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, on va se détendre avec Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le député RN, membre de la commission des finances, Jean-Philippe Tanguy. Tiens, il était membre de cette commission mixte paritaire qui a littéralement explosé en vol au bout de 10 minutes et qui a fait capoter le budget. Il nous le racontera dans un instant. Et puis juste après, il y aura le meilleur de Nicolas Canteloup. Ça, c'est à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
tous les jours de manche.
Il est 8h17 sur RMC. Alors Arnaud de Manche a pris quelques jours. Il revient en pleine forme à la rentrée. Mais en attendant, on vous en a gardé le meilleur. C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour et joyeux futur Noël les amis, puisque c'est bientôt Noël. Et chacun commence à préparer son réveillon. Chez Mathieu Béliard, on sélectionne le menu. Mathieu est amateur de grande cuisine. Cette année, il a décidé de se lancer dans une émulsion de chorizo en 7 expressions avec voile de paprika fumée. Donc hier, il faisait ses courses sur la dalle d'Argenteuil. Il était là, t'as du protoxyde d'azote? C'est pour mon siphon à mousse.
Tu veux pas
des petites cuillères, un briquet et des seringues aussi? Ah bah si, ça va me permettre de faire mes verrines de crumble au parmesan fumé avec son chou d'aneth cryo concentré et sa poussière végétale de fenouil sauvage. Vas-y, c'est un malade ce mec. Et en plat principal, il y aura des pâtes, hein, parce qu'à un moment, faire des plats élaborés, ça commence à faire chier pour des mômes qui apprécient pas la bonne cuisine. Hein, tu leur amènes une endive en braisage inversé, laquée au miel de châtaignier en polycaramélisation et crème lactique de chèvre, et ils te réclament des knackis, ces petits bâtards. Il y a pas de venir ouf. Courage, Mathieu, pour ce menu. Ça a l'air bon, hein, ceci. Allez, voyons ce que nous réserve aujourd'hui le calendrier de l'Avent du LOL. Ho, ho, ho! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un livre de Nicolas Sarkozy. Oh, il fallait pas. Non, vraiment, il fallait pas. C'est la sortie de Journal d'un prisonnier. 20 jours de détention, 20 euros. Wallen Sansal, il va nous sortir un bouquin à 300 balles. 300 jours de détention. Bam, un dictionnaire. Alors, François Ruffin, dans une vidéo, reproche à Nicolas Sarkozy d'utiliser 1439 fois le pronom « je ». Oui, d'accord, mais en même temps, quand t'es tout seul en cellule, il n'y a pas beaucoup de personnages dans ton bouquin. Il n'allait pas inventer René l'araignée à qui il se confie, quoi. Il est resté 20 jours. Il n'y a pas de quoi devenir dingue au point de parler aux araignées. Je suis parisien, hein. Même moi, je peux passer 20 jours sans dire bonjour à quelqu'un. Je suis sûr, c'est très possible. Alors, le quotidien en prison de Nicolas Sarkozy était consacré aux prières et à manger des yaourts. Voilà, prière et lactose, c'est pas une incarcération, Sarkozy, c'est un chaussé aux moines. Et il s'en prend à Emmanuel Macron. L'ancien président reproche au chef de l'État d'avoir détourné le regard lors de ses ennuis judiciaires. De toute façon, Macron, il détourne le regard sur plein de trucs. Là, il a détourné le regard sur la dépense publique pendant 9 ans. Macron, il détourne tellement le regard, il va finir par loucher. C'est plus le Mozart de la finance, c'est le Dalida des comptes publics. C'est... Hop là.
Sébastien Lecornu a affirmé, Arnaud, que le gouvernement souhaite mettre en place l'allocation sociale unique.
Oui, c'est-à-dire fusionner plusieurs prestations sociales comme le RSA ou la CAF. C'est une mesure faite pour draguer la droite. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous aussi vous voulez draguer la droite ou quelqu'un de droite, faites comme Sébastien Lecornu. Allez en rendez-vous et... Ouf, ouf, ouf. Alors, j'ai pas de voix pour Lecornu, donc j'ai pris Raymond Barre du mauvais de chose, ça embête personne. Je trouve qu'on dirait lui.
C'est pas mal.
Ouf, ouf, ouf. Tu sais, Marie-Catherine, je pense que l'allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC permettrait de lutter contre la cistana. Oh, on ne m'avait jamais rien dit d'aussi excitant de ma vie, Sébastien. Mes parents versaillais vont t'adorer. Je suis si torride. Oh oui, dis-moi les gros mots. RSA, intermittent, oh sauvage encore, transition écologique, oh salaud, fais de moi ce que tu veux, je suis ta chose. J'ai vécu à Versailles, je sais que ça marche. Alors cette mesure était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017 et si elle est votée, bah, ça va le consoler un peu d'avoir perdu sa précieuse réforme des retraites, son précieux dont il déplore la perte comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Depuis il se balade tout nu dans les jardins de l'Elysée la nuit. Ma précieuse réforme, la gauche me l'a prise, mais avec l'allocation unique, je vais pouvoir couper des aides sociales. Les pauvres vont mourir, la gauche va mourir, tout le monde doit mourir, sauf moi, tu l'es. Je vais rester à l'Elysée avec mon précieux bilan.
C'est sensuel, quelque part. La proposition du RN de rouvrir les maisons closes continue de faire débat, non?
Déjà que la France est en bordel, autant les rouvrir. Hein. Alors, Marine Le Pen soutient cette loi et c'est un retour aux sources pour elle. Souvenez-vous, son parrain, c'était Henri Bottet, alias Monsieur Éric, l'empereur de Pigalle, aussi surnommé Razmotte. Vous vous souvenez de cette histoire? Non, Jean-Marie Le Pen avait nommé parrain de Marine Le Pen le plus grand proxénète des années 70. Quelle drôle d'idée. Un catholique pratiquant, vive la messe en latin, mais il prend pour parrain le roi des macros qui règne sur 2000 prostituées et qui a des copains braqueurs de banque. C'est vraiment comme Bolloré qui programme des émissions chrétiennes et juste derrière, il fout Jean-Marc Morandini qui a plus le droit d'approcher d'un mineur. Ah, mais c'est bien à moi les pistagères. La pauvre Marie, Allez Marine, on va voir Parrain. Et Zou, il emmène sa fille de 4 ans au Sexy Ploum Ploum. Elle se balade au milieu de gens tout nus qui disent « Oh, monsieur le secrétaire d'État, ça faisait longtemps !» Et elle voit des vieux énarques chauves et torse nus en caleçon rayé avec des fixes chaussettes comme dans Tintin. Et des filles seins nus avec des plumes d'autruche. Non mais Apolline, vous auriez pas emmené vos enfants de 6 ans au cabaret du nichon qui fume ou au Ploum Ploum Sexy de Pigalle? Pas ceci dit, si vous voulez, pensez-y pour le week-end, hein, c'est une activité sympa.
Tout à fait, nous sommes vendredi,
mais oui,
des belles activités. Merci beaucoup Arnaud, qu'on retrouve tous les jours. Et oui, on le retrouve tous les jours, Arnaud de Manche. Il est l'heure.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Il est l'heure de ressortir le calendrier de l'Avent pour ouvrir la toute dernière case. C'est le moment de couvrir Séverine de cadeaux. Bonjour Séverine. Séverine,
oui,
vous
bonjour.
Nous entendez?
Ah bah
oui,
je suis trop contente.
Ah bah c'est pas le moment de pas nous entendre.
Contente.
Vous êtes là. Oh, Séverine, Séverine,
oui,
c'est l'heure. J'ai presque envie de vous chanter du Mariah Carey, mais je ne le ferai pas, c'est promis Séverine. Vous êtes en Vendée.
Ah bah, si vous pouvez.
Oh, on va ouvrir le calendrier. On y va? Allez,
oui,
donc nous sommes le 24, hein, ça on le sait. On y va, on ouvre le petit.
Oui.
Et vous avez remporté, c'est Noël, le très haut de gamme casque Apple, les AirPods Max, le casque Apple, une expérience d'écoute extraordinaire avec un son haute fidélité qui permet la réduction aussi active du bruit, une valeur de 580€. Félicitations Séverine.
Merci beaucoup.
C'est Noël.
Merci.
C'est Noël.
Trop
c'est non, Noël. Séverine, on est très heureux de passer ce Noël avec vous. Très belle journée à vous, Séverine.
Non,
joyeux Noël.
Merci.
Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité. Ça a été un plaisir aussi c'est vrai, chaque jour, de vous couvrir tous de cadeaux avec ce jeu du calendrier de l'Avent. Il est 8h24 sur RMC. Dans un instant, je file sur BFM TV et RMC avec mon invité à 8h30, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National. Marine Le Pen, hier, tout sourire à l'Assemblée qui, se tournant vers le Premier ministre, lui a parlé d'une trêve de Noël. Sébastien Lecornu lui a répondu, pourvu que ça dure, cette trêve de Noël, y compris jusqu'en janvier, pour voter un budget ensemble. Je pose la question évidemment à Jean-Philippe Tanguy dans un instant. Il est 8h24, à tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Les services de La Poste, toujours perturbés ce matin, même si le groupe assure qu'elle a perdu en intensité. La cyberattaque de lundi est toujours en cours et on en connaît désormais les responsables, puisqu'elle a été revendiquée hier soir par des hackers pro-russes. Leur nom, No Name 057, un groupe de cybercriminels qui n'en est pas à son coup d'essai. La paralysie à La Poste qui touche à sa fin et celle du pays tout entier qui s'éloigne grâce à la loi spéciale définitivement adoptée par le Parlement hier soir. C'est ce texte qui va permettre d'assurer le financement de l'État en attendant le vote du budget dont les discussions reprendront en janvier. Et on revient sur ce groupe de cybercriminels qui a revendiqué la cyberattaque à La Poste, No Name 057. C'est son nom, Ameline Lafchin.
Oui, No Name 057 a depuis sa création, juste après l'invasion de la Russie en Ukraine, multiplié les cyberattaques. En France, on en compte plus de 2000 en 2 ans.
Ils ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient.
Damien Bancal est spécialiste en cyberintelligence.
On peut parler de mairie, on peut parler de département, on peut parler aussi d'entreprise. Pourquoi ils attaquent telle ou telle entreprise? L'important, c'est pour eux de faire parler d'eux.
Car ces pirates informatiques ne s'intéressent pas aux données, mais aux messages que ces attaques peuvent véhiculer. À chaque attaque, un objectif clair et assumé, servir les intérêts du Kremlin. Et pour cela, un même mode opératoire, les attaques en déni de service, aussi appelées DDoS, ultra efficaces pour saturer et paralyser un site. Alors si la revendication de No Name dans la cyberattaque contre La Poste reste à authentifier, selon une source gouvernementale, le mode opératoire rend crédible leur implication.
Et notez que désormais c'est la DGSI qui est en charge de cette enquête. Les agriculteurs s'apprêtent à passer les fêtes de Noël sur les barrages et ce, malgré le rendez-vous de leur syndicat hier à l'Élysée. Ils ont été reçus par Emmanuel Macron, mais ça n'a pas suffi à calmer leur colère. C'est ce que disait ce matin le porte-parole de la Confédération paysanne, Stéphane Gallet, sur RMC.
J'ai eu vraiment le sentiment d'une déconnexion dans notre dialogue, en fait. Je pense que c'est un peu ça le drame. Il ne ressent pas, en fait, la réalité des paysans, des paysannes, le désespoir aussi. Parce que en fait, on n'a pas envie, nous tous et toutes, de passer Noël sur un rond-point. Si on le fait, c'est qu'il y a un vrai message de désespoir, de volonté de changement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a pas entendu ça, parce que en fait, on n'obtient rien. Donc la pression, il faut qu'on continue à la mettre, en fait. Ils ont un peu peur, là, j'ai le sentiment du fait qu'on reste dans les rues et que ça s'accélère. Ben, on va rester dans les rues et on va faire en sorte que ça s'accélère.
Fin d'année compliquée aussi pour Airbus, qui vient de subir un nouvel incident sur l'un de ses A320 après un problème moteur samedi dernier sur un vol Paris-Ajaccio. Ce sont cette fois les passagers du vol Vueling entre Paris et Ibiza qui ont eu une grosse frayeur. L'appareil a dû atterrir en urgence hier à Clermont-Ferrand. Eux vont pouvoir souffler, ce sont les habitants de l'Hérault dont le département est sorti de la vigilance rouge ce matin. Et c'est aujourd'hui que va démarrer se poursuivre la décrue. Il faudra composer avec le froid qui frappe tout le pays. Météo France a déjà placé la Drôme et l'Ardèche en alerte orange, neige, verglas, et les températures vont fortement chuter. On s'apprête d'ailleurs à vivre le Noël le plus froid jamais enregistré depuis 15 ans.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est le député RN Jean-Philippe Tanguy. Loi spéciale adoptée à l'unanimité hier. Marine Le Pen a parlé d'une trêve de Noël. Mais est-ce que ça durera jusqu'à une adoption du budget en janvier? J'interroge donc tout de suite Jean-Philippe Tanguy sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h31 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame de Malherbe.
Vous êtes député RN de la Somme, vous êtes membre de la commission des finances. Tiens, vous étiez même dans la commission mixte paritaire, absolument, la fameuse qui a explosé en vol et le budget avec. Mais tout de même, hier, un moment presque de grâce à l'Assemblée, un vote unanime pour une fois. Vote unanime de la loi spéciale, donc à l'Assemblée nationale hier soir. Cette loi spéciale qui permet à la France de continuer à tourner au moins le temps d'attendre un budget. Marine Le Pen a décrété une sorte de trêve de Noël, elle l'a dit en s'adressant au Premier ministre, et Sébastien Lecornu lui a d'ailleurs répondu en souriant, en espérant, dit-il, que cette trêve se poursuive jusqu'en janvier pour pouvoir adopter un budget. Chiche ?
Écoutez, Monsieur Lecornu a fait un peu de politique sur la déclaration de Marine Le Pen, qui était avant tout pour remercier tous les Françaises et toutes les tous les Français et toutes les Françaises, pardon, qui travaillent aussi en ce jour de Noël, les soignants, nos policiers, nos gendarmes, tous ceux qui assurent nos sécurités, tous ceux qui nous transportent pour aller vers nos familles. C'était un hommage aussi à cette France qui ne va pas profiter de sa famille, qui ne va pas profiter de ses proches pour s'occuper de nous. Et c'est vrai que ça concerne un petit peu le monde politique, qui cette année n'a pas donné une très belle image de nous-mêmes, parce qu'on se rend bien compte que les promesses qui avaient été faites aux Françaises et aux Français aux dernières élections, à savoir ne donnez pas le pouvoir au Rassemblement National et puis on va s'arranger, on se rend bien compte que tout ce petit monde n'arrive pas à s'arranger.
Oui, mais
et
vous-même, vous étiez dans la bataille politique. Enfin.
Ah ben absolument, mais parce qu'on porte des idées. Tout le monde était contre nous. Bon, il se trouve que par acquis de conscience, j'ai regardé la soirée électorale des élections législatives de 2024.
Vous vous avez re-regardé?
Oui, j'ai regardé un peu par acquis de conscience.
Vous faites ça de temps en temps, vous re-regardez
dans mes soirées un peu de solitude.
D'accord.
Pour revoir si parfois je ne vis pas dans un monde parallèle, parce que vous recevez beaucoup de femmes et d'hommes politiques, ils ont tendance à se reconstruire un monde parallèle. Donc je suis allé revoir ce qui s'est dépassé ce soir-là, et puis ils étaient tous, main sur le cœur, on a battu le Rassemblement National, Jordan Bardella n'est pas Premier ministre, mais vous allez voir, on a entendu le message, on va se mettre d'accord, on va résoudre les problèmes. Bah, écoutez, on est 2 ans après, et cet échec du budget, c'est l'échec du système. Ce sont des gens, on l'a vu notamment au Sénat. Le Sénat n'a pas réussi à baisser les dépenses publiques. Le Sénat a encore aggravé le déficit public de 10 milliards d'euros, comme ils l'ont fait sur la sécurité sociale. Et c'est facile d'endormir tout le monde avec de la dette, hein, vous savez, Madame de Malherbe. Ça fait 50 ans qu'ils font ça. La dette, ça se voit pas à court terme. Voilà, ça passe. Les gens se disent, parce qu'ils sont fatigués, qu'ils ont autre chose à faire dans leur vie, bon, bah, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Et puis, la dette, là, depuis 3 trimestres, elle a augmenté de 180 milliards. Donc 180 milliards à 4%, bah, je vous laisse faire le calcul, ça fait 6 milliards, plus de 6 milliards d'intérêts. Et qui est-ce qui va payer les intérêts? Qui est-ce qui va payer la dette? Eh bah, ben, c'est ceux qui travaillent, ce sont les retraités, c'est pas les hommes politiques. Donc en fait, ce système, si vous voulez, qui endort, voilà, qui fait le l'édredon. Voilà, c'est l'édredon avec la grosse dette bien dodue. Et ben à la fin, malheureusement, c'est les Français qui paient. Et je vois bien que la question de la dette et de l'endettement public, il passe un peu au deuxième plan.
Reconnaître au moins à François Bayrou d'avoir considérablement parlé de cette dette.
Exactement. Ben, c'était exactement ça, Madame de Malherbe. C'est qu'alors qu'on a eu 6 mois quand même sur ce thème-là, ben finalement, comment signer la séquence politique sans Monsieur Bayrou? Certes, on lui souhaite bon rétablissement. Il paraît qu'il a eu une grippe assez sévère. On lui souhaite bon rétablissement avec ses proches. Ben, ça se finit par plus de dettes, plus d'endettement. Et les républicains de M. Retailleau, vous avez quand même reçu beaucoup M. Retailleau depuis 2 ans, toujours il vous explique qu'il va baisser la dépense publique. Il a eu le pouvoir pendant 2 semaines de baisser la dépense publique. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national. Ce n'est pas une interprétation de ma part.
Il a eu le pouvoir un peu plus longtemps que 2 semaines.
Non, mais sur le budget. Ah, oui. Sur le Sénat, pardon, je ne l'ai pas été clair. Sur le Sénat, il aurait pu baisser la dépense publique. Parce qu'on parle de quoi? Il y a...
Alors attendez, parce que là, vous avez dit plein de trucs. Jean-Philippe Tanguy. Non, vous avez dit plein de trucs. Je sens que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais on va prendre les choses petit à petit. D'abord, sur la situation au moment où on se parle. Ce budget, il a donc été rejeté. Vous nous raconterez dans un instant d'ailleurs comment ça s'est passé derrière les portes de la commission mixte paritaire.
Pas glorieux.
Mais il y a quand même cette loi spéciale. Certains disent cette loi spéciale va nous coûter une fortune. D'autres disent au contraire, bon, si ça dure pas longtemps, et c'était le cas de Philippe Juvin, il disait au fond, rapporteur du budget, c'est pas non plus une catastrophe pour le budget de la France si ça dure pas trop longtemps. Est-ce que la question c'est est-ce qu'il y aura un budget en janvier? Est-ce que vous estimez vous qu'il faut un budget en janvier?
Bah, qu'il faille un budget, oui, bien sûr qu'il faut un budget. Si c'est le budget qu'on nous propose, c'est une catastrophe parce que concrètement c'est quoi? C'est 19 milliards de hausse d'impôts. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé. C'est vrai que les débats budgétaires, c'est compliqué à suivre parce que on est dans notre petit monde, hein, politique, très technique, où on vit notre petite vie et il y a des choses qui sortent de l'extérieur. On a l'impression qu'il y a plein d'impôts d'un coup qui sont votés alors que l'essentiel est théorique et très bidon.
Donc à la fin, vous avez fait le calcul et vous considérez qu'il y a 19 milliards.
C'est pas mon calcul, c'est le texte qui est déposé par le gouvernement. Vous regardez le tableau de la hausse des impôts, il y a 19 milliards de hausse d'impôts qu'on appelle des recettes fiscales et puis il y a 5 milliards encore en plus qu'on appelle des recettes non fiscales. Donc c'est 24 milliards en plus. Ce qui est d'ailleurs exactement, et c'est là où on voit que c'est Bercy qui contrôle tout, la hausse d'impôts qu'on a eu en 2025. Parce qu'au milieu du budget, il y a eu ce qu'on appelait la loi de fin de gestion, c'est-à-dire encore un terme technique, et ils ont voté quoi? Ils ont acté qu'en 2025, l'ensemble de la baisse très limitée du déficit a été des hausses d'impôts, c'est ce que dit d'ailleurs
la Cour des comptes. Quel budget vous accepteriez?
C'est toujours des impôts,
quel
des impôts.
Quel budget vous accepteriez?
On accepterait une baisse de la fiscalité qui est gagée sur une baisse des dépenses. C'est quand même pas compliqué parce que vous savez, il y a 57% de la richesse des Français qui est en dépenses publiques. Donc, on se rend compte que ça fait une masse de plus de 1500 milliards d'euros. Et là, ils n'arrivent pas à trouver 10 milliards d'euros. Bon, écoutez, tout ça n'est pas sérieux. On voit bien qu'en fait, c'est un système qui est prisonnier de lui-même, mis en laisse, il faut bien le dire, par du clientélisme, par une forme de corruption passive. Vous parlez assez régulièrement sur vos antennes du prix des marchés publics, du fameux catalogue où on achète des biens très chers.
Des commandes publiques où effectivement on achète la moindre machine à café ou le moindre fauteuil de bureau plus cher que si on l'achetait sur le marché.
20%, ouais, bon, c'est quand même considérable. Bon, si votre chaîne était gérée comme ça ou votre famille, vous seriez sur la paille depuis longtemps. Donc tout ça n'est pas sérieux.
Oui, mais ça, tous les individus le disent. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple qui m'a frappé ces derniers jours. Ma prime rénov, puisqu'il n'y a pas de budget, l'agence qui s'occupe de gérer ma prime rénov ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas de budget. Donc, il n'y a pas de ma prime rénov qui est à nouveau suspendue à partir du 1er janvier. Et vous avez tout le monde du bâtiment, les artisans, les patrons de ces entreprises qui crient au scandale, qui disent c'est une catastrophe, on va s'écrouler. Ça veut quand même dire que quand vous dites le système, c'est y compris chaque individu, chaque travailleur, chaque ouvrier du bâtiment qui dit qu'il est désormais dépendant de cette dépense publique. Vous, au pouvoir, vous diriez aux artisans, aux commerçants, bah écoutez, on arrête vos aides?
On s'est engagé à arrêter ma prime rénov.
C'est fini, vous la remetteriez pas?
On enlève ce machin très technocratique qui est un nid à fraude. Il y a tous les rapports de la Cour des comptes là-dessus sont très clairs. C'est un nid à fraude qui fonctionne pas. En gros, quand vous mettez 2 euros d'aide publique, il y a qu'un euro qui est vraiment utile pour la rénovation thermique et pour ces ouvriers du bâtiment. Donc, on a proposé avec Marine Le Pen et Jordan Bardella ce qu'on appelle 100% rénov. C'est un taux après à taux zéro, un prêt vert, beaucoup plus simple, sans bureaucratie.
Oui, c'est beaucoup plus simple, mais ça veut dire que vous aussi, vous leur dites pas débrouillez-vous tout seul.
Non, mais c'est
vous leur dites pas débrouillez-vous tout seul. Vous continuez à leur dire on va vous aider, on va vous accompagner, on va avoir une dépendance à la dette.
Non, mais il y a des mécanismes qui fonctionnent. Or, ce mécanisme, il peut rapporter de l'argent. Alors là, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais c'est un système qui permettra en fait de rapporter de l'argent. Tout système n'est pas voué à coûter de l'argent public. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on a donné ce système aussi de ma prime rénov? C'est qu'on met tellement, l'État met tellement de normes, de bureaucratie, de contraintes, qu'ils sont toujours dans la compensation en fait de la bureaucratie par un petit billet, par un chèque. Regardez les agriculteurs, pourquoi ils en peuvent plus? C'est qu'on dit on va arracher vos vignes, on vous fait un chèque. On va tuer vos bêtes, on vous fait un chèque. On vous empêche de cultiver de la betterave ou des noisettes, on vous fait un chèque. Les Françaises et les Français, je crois, en tout cas la France du travail, on peut plus de ce système. On n'a pas déjà, moralement, c'est très condamnable, et en plus les gens ne travaillent pas pour avoir un chèque de l'État. ils le paient d'une façon ou d'une autre par leurs impôts de toute façon. Et surtout, on n'a plus cet argent. Mais... Donc en fait, on est sur un système complètement dingue où on détruit de la richesse. On détruit de la richesse.
Mais les agriculteurs,
et,
par exemple.
Jean-Philippe on compense Tanguy. La richesse par de la dette. Ça fonctionne plus.
Jean-Philippe Tanguy, les agriculteurs. Alors, il y en a quelques-uns qui restent à nouveau, qui restent encore sur l'autoroute, notamment à 64. Ils ont été reçus par Emmanuel Macron hier. La plupart, et notamment la Confédération paysanne, ne sont pas convaincus et appellent à maintenir les blocages. Vous, d'un côté, vous dites, on va réduire considérablement, voire supprimer la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Mais dans ces cas-là, qui va payer les agriculteurs ?
Oh bah c'est simple, on peut le payer nous-mêmes, puisqu'on va donner 30 cette année, ça augmente de 6 milliards, et on reçoit entre 12 et 15. Donc il y a 15 milliards nets. Hein. Si vous voulez, vraiment, c'est comme
les agriculteurs, ils remercient la PAC.
Les agriculteurs, ils font avec le système qu'ils ont. Mais les agriculteurs savent très bien que on donne 2 euros à l'Europe, elle nous en rend 1. Hein. Mais c'est mathématique. Je vous donne ma montre, vous me donnez l'heure, quoi. Voilà, c'est ça l'Union européenne aujourd'hui. C'est complètement déconnant. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, pareil, on compense des contraintes parce que cette PAC, vous savez très bien que les agriculteurs le disent aussi, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était une incitation à produire. On incitait les agriculteurs à produire en France, en Europe. Maintenant, dans la PAC, il y a plein de primes pour compenser ces politiques écologistes punitives, absurdes. On les empêche de cultiver des terres. On les paye, on leur dit de réduire leur cheptel, on les paye. C'est exactement la logique que je dénonçais tout à l'heure, Madame de Blaret. Et c'est pour ça que l'Europe décroche. C'est pour ça que l'Europe décroche. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs très compliqués. On est en décroissance, c'est-à-dire que nous avons des politiques bureaucratiques ou d'écologie punitive qui incitent à produire moins.
Alors techniquement, on
n'est
pas en décroissance, Jean-Philippe Tanguy. En termes économiques, la France a encore enregistré une forme de croissance économique.
Mais ça, c'est du pipeau. Vous voyez bien que ce sont des chiffres qui cachent une autre réalité. En fait, il faut prendre le PIB par habitant. C'est la richesse qu'on crée par habitant, parce que naturellement, on a des immigrés qui arrivent, on fait encore des enfants, même si la crise de la natalité est là. Donc mécaniquement, le PIB, il augmente un peu. Mais si vous prenez la richesse par habitant, on est complètement dégringolé. La France, en termes de PIB par habitant, je crois, est devenue la 26e puissance du monde, alors qu'on était dans les 10 premiers il y a encore 20 ans.
Donc pour vous, la France va mal?
Mais bien sûr qu'elle va mal. Mais vous voyez, pourquoi on n'arrive pas, par exemple, à financer les systèmes de retraite, tous les systèmes sociaux? C'est qu'on produit plus par habitant assez de richesse pour suivre le coût de la hausse de la santé, par exemple.
Est-ce qu'il vaut mieux rester sur cette loi spéciale ou adopter un budget ?
Il faut mieux rester sur cette loi spéciale si c'est pour avoir le budget qu'on nous propose.
Y compris toute l'année ?
Je préfère ça que ce qu'ils ont fait avec le PL, avec la sécurité sociale. Parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit qu'ils se sont mis d'accord, c'est formidable. Bah oui, le déficit de la sécurité sociale, il est passé de 16 à 24 milliards. Ils ont augmenté le déficit d'un coup de 50%. C'est facile de se mettre d'accord là-dessus. Hein. Tout le monde peut se mettre d'accord en faisant payer les autres.
Alors quand vous preniez 16, c'est une question aussi de chiffres. Quand vous preniez 16 et que là vous prenez 24, vous prenez les deux chiffres effectivement extrêmes. Dans le 24, vous rajoutez y compris la contribution de l'État qui ne participe pas officiellement aux chiffres du déficit. Oui.
Mais ça, c'est comptable, Madame de Malheur. À la fin, c'est qui paye? C'est les contribuables. Ça peut être l'État, la sécurité sociale. C'est un jeu d'écriture. C'est bien 24 milliards d'impayés. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ça, il faut bien
donc
les compenser.
Donc pour vous, s'il y a un 49-3, il y aura censure. S'il y a vote, vous voterez contre. Quoi qu'il arrive, vous ne participerez pas à l'adoption du futur budget.
Mais ils peuvent tout à fait faire des économies. Tout ça est encore possible. Des économies sur la submersion migratoire, sur le millefeuille territorial. Pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à faire des économies sur le millefeuille territorial? Faut quand même dire la vérité. Il y a des élections municipales, là, qui arrivent, et des élections sénatoriales. La réalité, vous me parliez de ce qui s'est passé en CMP. En CMP, en commission mixte paritaire, où il y a les sénateurs, les députés, les sénateurs, je vais vous dire, étaient pires que les députés. Parfois, il m'arrive d'avoir honte de l'Assemblée nationale, mais alors le Sénat...
Alors attendez, là Jean-Philippe Tanguy, vous êtes en train de raconter, et il faut que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, ce moment qui effectivement a fini par faire exploser le budget, la commission mixte paritaire, c'est ce moment où quelques députés, quelques sénateurs se mettent ensemble dans un huis clos, en quelque sorte, pour tenter de trouver un texte commun. Faute de quoi, il n'y a pas de budget, ou alors ça repart à l'Assemblée, mais là nous n'avions pas le temps, étant donné que le calendrier était trop restreint. Jean-Philippe Tanguy, il a suffi de quelques minutes, quoi. Ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, ils ont acté qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils arrivaient. Les socialistes voulaient plus d'impôts, les sénateurs voulaient baisser les dépenses, mais on ne sait pas où. Et surtout, les sénateurs voulaient préserver les crédits des collectivités territoriales. Et les élections sénatoriales, c'est en septembre. C'est un mot. Ça s'appelle de l'achat de voix.
Pour vous, les sénateurs ont acheté.
Ils sont en achat de voix.
Sont dans un clientélisme.
Mais c'est quelques centaines, voire quelques milliers d'électeurs par département, les sénatoriales. Donc quand vous votez des milliards d'euros de subventions qui vont directement à des élus qui sont en cours de réélection, en espérant que si vous aidez les élus municipaux des agglomérations à se faire réélire, après ils vont voter pour vous, ça s'appelle comment? Moi, si vous voulez, j'en ai aussi assez qu'on soit toujours dans le politiquement correct. Ah bah non, faut pas dire ça, c'est pas correct, les pauvres sénateurs. C'est pas des pauvres sénateurs. Quand vous versez des milliards d'euros payés par le contribuable par la dette à des gens, des grands électeurs qui après vont vous réélire, ça s'appelle de l'achat de voix.
Ça n'est pas public, hein, la commission mixte paritaire, ça se passe effectivement dans une forme de huis clos. Jean-Philippe Tanguy, Philippe Juvin ici même et Sébastien Lecornu à nouveau hier ont considéré que si ça avait échoué, c'était simplement parce qu'il manquait du temps. Mais ce que vous êtes en train de nous raconter là, c'est que c'était pas une question de temps.
Ah bah si, parce qu'ils auraient pu se mettre d'accord sur le déficit.
Ils auraient quand même fini par se mettre d'accord.
Ah oui, non, je pense que Philippe Juvin avait raison. D'ailleurs, il avait aussi raison sur le coût de la loi spéciale. Là, moi, ça fait un an, y compris sur votre antenne, que je dis que le fait que la loi spéciale avait coûté 12 milliards d'euros, c'était pas vrai. Il a reconnu que c'était
oui,
faux.
Il a pas, d'ailleurs, il avait jamais dit lui que ça avait coûté. C'est pas une question de reconnaître.
Non, bah si, parce qu'il a accès à tous les documents budgétaires que moi.
Il estime effectivement, calcul à l'appui, que lorsque un certain nombre de ministres avaient dit que ça avait coûté 12 milliards la loi spéciale et que donc il fallait absolument un budget pour ne pas avoir à payer cet argent. Philippe Juvin dit non, en réalité, il n'y a pas ce chiffre-là.
Voilà, donc c'est quand même beaucoup de mensonges de la part du gouvernement. Et là, je pense effectivement qu'ils n'ont pas voulu avoir le temps pour continuer cette comédie. Parce que moi, je pense depuis le début qu'en fait, M. Macron et M. Lecornu font une comédie pour gagner du temps sur ce budget, pour épuiser les Françaises et les Français. D'ailleurs, je suis obligé de reconnaître que ça marche un peu. C'est vrai que les gens en ont marre. Ils disent, écoutez, nous, on a nos problèmes, on a nos vies, on a nos familles, on a nos métiers, on n'en peut plus de ces histoires budgétaires, ça fait des mois et des mois, passons à autre chose. Donc en fait, ils jouent, il faut bien le dire, sur l'épuisement. Et je pense que là, effectivement, le fait qu'ils n'aient pas donné deux jours de plus à Philippe Juvin, rapporteur général du budget et au Sénat, pour se mettre d'accord sur un chèque encore à faire, c'était pas compliqué, c'était volontaire. Moi, je pense qu'ils veulent toujours perdre du temps pour montrer que le Parlement n'est pas responsable. Il n'y a que le gouvernement qui est capable de faire des choses. D'ailleurs, on verra comment. Est-ce que ce sera le retour du 49-3? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera les ordonnances? Il n'y a pas eu de vote, donc il peut encore y avoir ces ordonnances. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement applique le budget
si par ordonnance. Si on en croit Sébastien Lecornu hier, il a l'air de préférer, évidemment, que tout le monde se mette d'accord et que ce budget soit voté de manière, j'allais dire, normale, selon la procédure normale, là, qu'il n'y ait pas de 49-3.
Vous entendez
quand même cette volonté au minimum.
On verra, c'est sûr. Mais si ça se fait au détriment du déficit et de l'endettement, une fois plus, nous, on sera
si
pas
y a 49-3, vous censurerez?
Ah bah oui, bah évidemment. Mais on s'en sort pas pour censurer. C'est que la situation est catastrophique. Il y a vraiment un phénomène d'emballement de la dette. Et comme il y a un phénomène d'emballement de la dette, il y a un phénomène d'emballement des intérêts de la dette. Et c'est les Françaises et les Français qui paient. On peut pas, c'est trop facile, vous savez. C'est facile de venir ici, dire on s'est mis d'accord, et c'est les Français qui paieront dans 5, 10, 20 ans. C'est pas possible de faire comme ça, puis de laisser passer quand même aussi des gros mensonges. Quand même, quand on voit M. Pierre Lescure qui hier...
Le ministre de l'économie qui était à mon micro.
Est pris en flagrant délit de mensonge sur la fameuse taxe des petits colis. Et qu'il se passe le phénomène que le Rassemblement National avait annoncé depuis le début, à savoir que cette taxe sera contournée par des moyens logistiques et qu'il y a un entrepôt en Pologne qui s'ouvre.
Alors,
qui
vous utilisez le mot mensonge. On va être très précis, Jean-Philippe Tanguy, puisque, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai interrogé et que, en effet, je l'ai interrogé sur l'obsolescence déjà de cette taxe sur les petits colis, puisque la taxe, alors, il y a la taxe européenne qui, elle, devrait s'appliquer. En revanche, la taxe française, à proprement parler, ne s'appliquera pas, et c'est ce que je lui faisais remarquer, puisque Chine a déjà inauguré cette semaine un très vaste entrepôt à Varsovie, dans lequel les colis feront escale. Et comme ils feront escale à cet endroit-là, ils ne viendront plus officiellement de Chine, mais ils viendront de Pologne.
Exactement.
Et donc, il n'y aura pas de taxes.
Oui,
et deuxième étage de la fusée,
on avait dit.
Il est quand même possible également qu'ils n'aient pas à payer la taxe européenne, puisqu'ils vont, semble-t-il, les faire venir dans un conteneur au lieu de les faire venir un par un. Ça deviendra un grand colis officiellement. Et si ça devient un grand colis, il n'y aura pas non plus la fameuse taxe des 3 euros européenne qui devrait s'appliquer au 1er juillet. Donc, en effet... C'est contourné. C'est pas pour autant un mensonge.
Mais si.
C'est-à-dire que la taxe, elle existe. C'est juste qu'elle sera pas appliquée.
Mais si, Madame de Malherbe, parce qu'on a eu ces discussions au Parlement. Au Parlement, il se passe des choses. Marine Le Pen et votre serviteur ont exactement dit cela au ministre. Et on nous a répondu qu'on était des populistes, qu'on comprenait rien, qu'ils étaient évidemment supérieurement intelligents à nous. Alors que c'est une évidence. C'était tellement facile à contourner cette taxe petit colis. C'est exactement ce qu'on
leur a dit.
Mais du
coup, on fait quoi face à Chine?
Eh ben, on met des vraies taxes douanières. Des vrais, regardez ce qui s'est passé là. On a des rétorsions sur le porc, sur les produits laitiers de la Chine. Tout le monde sait que c'est bidon. Et l'Union européenne n'est capable de se défendre qu'en 18 mois, en suivant les règles de l'OMC. C'est fini tout ça. Voilà. Tout ce baratin qu'on a entendu.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer les règles? Les règles du jeu?
Mais il faut prendre les règles telles qu'elles sont dans le monde réel. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est, il faut le dire, des règles assez violentes, assez brutales, où des États empires imposent leurs règles. Donc il faut que l'Union européenne arrête d'être le pigeon de tout ce petit monde et qu'on réponde la force par la force, et qu'on mette des vraies bannières douanières, des quotas textiles et qu'on reprotège notre industrie, que ce soit l'industrie lourde, l'agriculture ou la petite industrie type textile. On est en train d'être submergé par la Chine qui a passé les 1000 milliards d'excédents. Je sais pas si on se rend compte. La Chine a 1000 milliards d'excédents commerciaux en particulier sur notre dos, et aussi on a eu les chiffres de la pollution. Jamais la Chine n'a brûlé autant de charbon. Voilà, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on est en train de se désarmer, d'affaiblir notre industrie, notre agriculture, d'être des pigeons, bah la Chine, elle avance, elle défend ses intérêts, mais à des niveaux stratosphériques.
Jean-Philippe Tanguy, attaque de la Poste, revendiquée par un groupe de hackers qui seraient des hackers pro-russes. Est-ce que c'est une forme de déclaration de guerre ?
Guerre, non, parce qu'il faut quand même faire attention aux mots, puisque la vraie guerre physique avec des centaines de morts.
À une époque, on parlait d'une guerre froide sur une menace. Oui. Là, il y a des choses.
Même pendant la guerre froide, excusez-moi, Madame de Malherbe, pendant la guerre froide, il y a des pays de l'Est, la Hongrie, qui ont connu des répressions extrêmement lourdes. Les pays étaient occupés par les Soviétiques, il y avait quand même des morts, il y avait de la répression, il y avait des gens qui souffraient sous la guerre froide, et il y a eu plusieurs conflits armés. Là, il y a un conflit armé en Ukraine, dont l'Ukraine est victime, avec plusieurs centaines de morts innocents par jour. Donc la guerre, elle est là. Par contre, est-ce qu'il y a des actions très hostiles, très offensives, agressives de la Russie sur les intérêts français ? Attaque de la Poste, attaque de banques, attaque d'hôpitaux, rançonnage, cyber-rançonnage ? Oui, malheureusement, ça existe et on en est de plus en plus victimes. Et la France se défend, il faut le dire, assez bien. Vous voyez, je suis très critique sur beaucoup de choses du gouvernement, mais sur la riposte, entre guillemets, numérique, la cybersécurité, l'État français essaie quand même de se défendre et progresse sur ce sujet-là.
Est-ce que vous craignez pour les élections municipales qu'il puisse y avoir une ingérence étrangère ?
Non, car en fait, on a un système démocratique qui se défend bien. Le système médiatique français se défend. Les Français sont éduqués. C'est un peuple éduqué, averti, politique, qui sait très bien faire la différence entre les fausses nouvelles, les arnaques et les vraies informations.
Vous ne croyez pas du tout qu'il y ait une naïveté face aux fake news ?
Non, on avait fait une commission d'enquête, donc j'étais président sur les ingérences étrangères. Il y avait des vrais problèmes de rançonnage, de cyber-rançonnage, d'attaque, ça c'était vrai. Par contre, sur les informations, la démocratie française répond bien parce que notre peuple, en fait, est autonome. Voilà, pas besoin d'un État nounou qui vienne nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Les Françaises et les Français, avec les journalistes, il faut le dire, font un travail d'information, de défense de la démocratie qui fonctionne. Voilà, mais pourquoi toujours dire que tout fonctionne mal ? Moi, je crois que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est toujours assez grossier. On voit des choses. Moi, j'ai plus victime de fake news. Vous allez voir mes comptes des réseaux sociaux. Il y a des fausses vidéos sur moi qui tournent, des insultes. Je m'en fiche, ça m'empêche pas de dormir. Mais bon, on est tous victimes de ça. Bon, je vois bien que les gens sur le terrain, dans ma circonscription, et je les salue pour Noël, ils y croient pas. Voilà, les gens font bien la différence entre ce qui est pipeau et ce qui l'est pas.
Donc il y a des choses qui fonctionnent. Vous le dites, et c'est peut-être parce que c'est Noël. C'est peut-être finalement une façon pour vous de respecter cette fameuse trêve de Noël. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions. Député RN de la Somme, joyeux Noël à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Restez bien sur RMC. Dans un instant, on vous a gardé le meilleur de Nicolas Cantelou.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Cantelou.
Le meilleur de Nicolas Cantelou, c'est tout de suite. Souvenez-vous, Jean-Louis Borloo était l'invité du Face à Face et il était resté face à Cantelou.
J'ai mis 1h15 pour trouver votre studio. On me dit, tu vas chez RMC. Moi, j'y allais serein. Hein. Mais pas du tout chez vous, c'est un escape game. Hein. C'est un bordel sans nom, tu sais pas où tu vas. T'as RMC, la radio, ok, t'es rassuré, mais t'as aussi RMC Story. T'as RMC Sport, RMC Live, RMC Découverte. Et attends, pour compliquer l'histoire, le truc est quand même génial, il y a quand même des intelligents dans votre truc, c'est qu'RMC est à la même adresse que BFM. Non, du coup, t'es dans la même boutique, et comme c'était trop simple, t'as BFM Télé, BFM Radio. Non mais c'est un bordel, t'as BFM Business, BFM Paris, BFM Île-de-France, BFM Les Locales, t'as un couloir avec des studios partout, à gauche, à droite, t'as le 4, le 5, le 3, le 2, le 1, t'as la Française des Jeux, voilà. T'es pas dans BFM. Mais bon, une fois que t'as trouvé la station, oui. Tu te dis t'es content, la radio, t'es tranquille. Ben non, parce que toutes les radios aujourd'hui, elles sont filmées. Donc tu sais plus si les gens, ils te regardent à la radio ou s'ils t'écoutent juste à la télé. Et puis c'est géré par qui ? Tu sais pas. T'as
un directeur d'antenne.
Tu me fais sentir mon joker.
T'as un directeur d'antenne, t'as le directeur des rédactions, t'as un directeur général, t'as un président directeur général. Déjà, général, c'est du beau, mais t'as en plus, il est directeur général. Tu vois, ça piche de paye, tu pleures. T'as des directeurs de partout. Mais c'est une ruche, sauf que c'est toutes les abeilles, c'est des reines.
Donc, faut un big bang.
Faut un big bang. Mais je vais te dire une chose, c'est pas fini, ça, parce que ça appartient à un actionnaire.
Ah là là. Oh,
actionnaire. Dont le gars, c'est pas le métier. Le gars, il est marin. Il est marin, il est sur les bateaux. Le gars, c'est Captain Igloo. Oh. Tu penses bien qu'il y a autre chose à foutre que d'écouter Julien Cazard. Donc le mec est malin. Il a dit à sa femme, écoute, chérie, ça te dirait de gérer les clowns? Et elle a dit oui. Du coup, c'est la femme du Captain Igloo qui gère les clowns. Non, mais arrêtez de ricaner là, bon fond, parce que Captain Igloo s'est filmé, il vous voit.
RMC, le super Moscato Show.
Les gars, on repart en mastic, c'est parti, le super Moscato Show. Alors, je t'explique la situation. D'un côté, t'as 577 députés. On a levé les virgules, ça fait plus que 500. De l'autre, t'as Macron. Macron, il a son équipe, c'est lui. Il est tout seul. Il est tout seul, le gosse. Il n'y a plus personne. Tous les rats ont quitté le navire. Les Philippe, les Attal. Il n'y a qu'un gars qui reste, le gosse. Le cornu, le moins soldat, putain, il est plus moine que soldat, le gosse, putain! Et là, le seul mec, il sort sur blessure, fracture du gouvernement, va casser le mec,
pas. C'est vrai que c'est déséquilibré, du coup, forcément.
Mais ça fout, hein, Macron. Macron, il croit, le mec, il est burné, tu vois. T'as l'Oblak devant lui, il y va quand même. Mais pourtant, il a sa petite raquette, tu sais, comme l'autre avec sa tête de pichon, là. C'est Félix Lebrun face au Oblak. Et le mec, il va quand t'as vu, mon analyse, j'ai pas écouté Alain Duhamel. Attends, tu mets un short à Duhamel, c'est moi, tout craché. La même rigueur dans l'analyse, oh putain, pas de chaîne.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve à tout moment en podcast sur rmc.fr. Dans un instant, les GG. Olivier Truchot, quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent pour débattre de l'actualité en direct, comme tous les matins sur RMC, RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, et vous bien sûr au 32-16. Donc autour de la table, il y aura Zorabitan, Antoine Diers, le consultant de Dunkerque, et le cheminot Bruno Poncet. On compte sur vous.